Vous écoutez
RMC.
Vous écoutez RMC, il est 7h.
RMC 7-9, Anaïs.
Bonjour Clara Gabillet. Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Les Lions de l'Atlas n'ont pas tremblé contre le Brésil. Ils les ont tenus en échec, match nul un partout. Vous entendrez la joie des supporters marocains avec qui on a suivi le match cette nuit. Un accord, oui, mais pour quand? Les États-Unis et l'Iran prêts à le signer, mais n'ont pas le même calendrier en tête. Et puis deux nouvelles plaintes déposées contre Patrick Bruel, déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle. Avec ce premier choc, donc, Brésil-Maroc, mais sans vainqueur. Les Lions de l'Atlas ont tenu tête au quintuple champion du monde. Match nul un partout cette nuit avec un but de Saïbari côté marocain avant l'égalisation de Vinicius. Tout s'est joué en première période. Et les supporters marocains ont été conquis par ce début de mondial. Camille Borin, vous avez suivi le match avec eux au Grand Rex à Paris.
Oui, ils étaient 2500 supporters marocains hier soir au Grand Rex. Et parmi eux, il y avait Noé.
Ah, franchement, le match est incroyable. L'ambiance de la salle a été incroyable, il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de supporters marocains, c'était hallucinant. Les joueurs, ils ont donné à fond, même si c'est un nul, mais c'est pas grave, c'est le Brésil quand même en face, c'est pas n'importe quelle équipe.
Résultat final, un partout entre le Brésil et le Maroc, mais qu'importe, Najib n'est pas prêt d'oublier l'ouverture du score de son équipe.
Le moment qui m'a plus marqué, c'est le but du Maroc, à la 23e minute. On a tous éclaté dans la salle, c'était euphorique, on s'est amusé, donc franchement, ouais, on attend de revivre ces moments-là sur le reste de la compétition.
En 2022, les Marocains avaient créé la surprise en atteignant les demi-finales. Alors quand on demanda à Ahmed s'ils peuvent soulever la coupe cette année...
On joue une compétition, c'est pour aller la gagner. Hein. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de grosses nations. Il va falloir les écarter pour aller gagner le titre. Mais là, ce qu'on a vu ce soir, c'est une équipe bien disciplinée. On peut aller loin.
Tous les matchs du Maroc seront diffusés au Grand Rex. Prochain rendez-vous à minuit, dans la nuit du 19 au 20 juin. Ce sera contre l'Écosse.
L'Écosse qui, de son côté, s'est imposée 1-0 contre Haïti. Et puis en ce moment, c'est l'Australie qui mène 1-0 contre la Turquie.
Oui, on continue de suivre la rencontre. On retrouvera Clément Cressiot tout au long de la matinée pour faire le point sur cette rencontre.
Les Bleus, eux, continuent de se préparer à deux jours de leur premier match contre le Sénégal avec une bonne nouvelle. Hein. William Saliba de retour à l'entraînement hier, le défenseur qui était gêné au dos. Conférence de presse de l'équipe de France hier pendant laquelle plusieurs joueurs, Koné ou encore Hernandez, ont pris la défense de Kylian Mbappé, critiqué hein, après sa saison très mitigée au Real sur son niveau. Mbappé, que les parents de Christophe Glaise auraient aimé voir prendre la parole hein, sur le cas du journaliste sportif emprisonné en Algérie. Ils étaient dans l'émission C'est dans l'air hier soir.
Ils ont reçu le message, ça c'est clair. Ils ne s'impliquent pas, c'est également très clair. On le regrette, mais on va pas trop le regretter. C'est la Coupe du Monde, donc on va pas leur porter la poisse pour les matchs. On les soutient. Mais bon, c'est vrai qu'on aurait espéré un petit geste. Mais enfin, on se plaint pas, parce que quand même, le monde du football est vraiment très mobilisé. Et les clubs de football français sont très mobilisés.
En basket, Victor Wembanyama devra encore patienter un peu avant de décrocher son premier titre en NBA. Les Spurs ont été battus cette nuit de 4 points, victoire 94-90 des New York Knicks qui sont donc sacrés champions en remportant la finale 4 manches à 1. Premier titre pour les Knicks depuis 53 ans. Jalen Brunson est élu meilleur joueur des finales, il a inscrit 45 points cette nuit.
Et les 7h03, toujours pas d'accord ce matin entre les États-Unis et l'Iran.
Il sera signé aujourd'hui, dit Donald Trump, ainsi que le médiateur pakistanais. Pardon. Mais Téhéran ne dit pas la même chose et repousse l'échéance au prochain jour. Lucas Laubert, c'est donc une question de temps.
Oui, mais la question, c'est combien de temps, justement. Donald Trump, vous le disiez, le président américain affirme que la signature du protocole d'accord est prévue aujourd'hui. Plus tôt dans la journée hier, le premier ministre pakistanais, pays médiateur, avait lui aussi annoncé que la signature pourrait avoir lieu dans les 24 heures. Discours différent pour Téhéran. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a déclaré que l'accord n'était pas au programme aujourd'hui, mais plutôt dans les prochains jours. Alors maintenant, que contient ce compromis? Selon Donald Trump, les États-Unis iront récupérer l'uranium enrichi en Iran au moment opportun. Dès la signature, le détroit d'Ormuz sera ouvert à tous, a-t-il également assuré. Le déminage du détroit sera notamment au programme du G7 qui s'ouvre demain à Évian, où Donald Trump est attendu.
Lucas Laubert, un G7 très contesté. Hein, plusieurs organisations, syndicats et partis politique appellent à boycotter le sommet. Une manifestation No G7 prévue cet après-midi à 15h à Genève en Suisse. Plusieurs milliers de policiers déployés car l'on redoute des débordements. Les manifestants et les commerçants se préparent, Rachel Sadodine.
Une ville fantôme, de paroles de Genevois, on n'a jamais vu aussi peu de monde dans des rues. Pourtant baignées de soleil, Olivier, 83 ans, a hâte d'y brandir les pancartes qu'il vient de terminer.
On a deux banderoles, une c'est génocide à Gaza, G7 complice, et l'autre c'est fuck Trump.
Traduction, Trump va te faire voir. Le président américain qui fête aujourd'hui ses 80 ans dans le viseur des manifestants, mais il n'est pas le seul. Mélisse, étudiante de 19 ans, craint aussi.
Les violences policières, on est pacifistes et on est là pour faire entendre nos voix, pas pour casser. Il y a des flics partout. Apparemment, ils sont là pour sécuriser, mais franchement, ils font peur. Tu peux pas faire deux pas sans qu'ils t'arrêtent, qui que tu sois.
Une présence policière qui, au contraire, rassure Océane. Lors de la manifestation anti-G8 de 2003, l'hôtel de ses parents, situé juste derrière la gare, avait été pris pour cible.
On s'était fait exploser les vitres, on avait des employés blessés à l'époque, etc.
Alors, malgré ces grandes baies vitrées et le soleil qui cogne à l'extérieur, le hall de l'hôtel est aujourd'hui plongé dans le noir, entièrement barricadé.
Avec des planches de contrepaquet pour éviter les projectiles.
Et pour sécuriser les entrées et sorties des clients, les hôteliers ont embauché deux agents de sécurité pour la journée.
Reportage de Rachel Sadodine. Deux nouvelles plaintes contre Patrick Bruel déposées avant-hier contre le chanteur mis en examen cette semaine pour viol et agression sexuelle. L'une de ces plaintes dénonce une tentative de viol et agression sexuelle en 2007 en marge du festival du film de La Réunion. L'autre, un viol et une agression sexuelle en 2012. Les témoignages qui s'accumulent contre le chanteur, mais ce n'est que le début de l'affaire selon Marine Turki, journaliste à Mediapart, à l'origine des révélations.
On le voit parce qu'aujourd'hui, des femmes sont en train de se manifester à la justice, des femmes sont en train de porter plainte, des avocates qui sont dans le dossier annoncent des plaintes, sont en train de rédiger des plaintes. Moi-même, je suis saisie par beaucoup de femmes qui se disent victimes, beaucoup de témoins qui disent avoir vu ou su des choses. C'est des dizaines et dizaines de témoignages qui m'arrivent et que je suis en train aujourd'hui de recouper, de vérifier. Donc je pense qu'aujourd'hui, le dossier s'alourdit, mais qu'on n'est qu'au début de l'affaire. Ces plaintes viendront s'ajouter aux faits auxquels le chanteur devra répondre, en tout cas s'expliquer dans le cadre de l'enquête judiciaire.
Après la mort de Liana, la réponse doit être intégrale, selon Sébastien Lecornu, qui le dit dans le journal Le Parisien. Le Premier ministre ne pense pas qu'une unique loi pourrait tout facilement régler. C'est l'ambition d'une loi intégrale, une proposition de loi co-signée par une centaine de députés et soutenue par la présidente de l'Assemblée. Édouard Philippe, aussi dans le journal Le Parisien, lui propose d'ouvrir le débat pour permettre aux parents d'interroger la police sur d'éventuels antécédents judiciaires d'un adulte qui serait en contact avec leur enfant. En Bretagne, un apnéiste est mort hier, un homme d'une trentaine d'années retrouvé inconscient dans l'archipel des Glénans au sud du Finistère. Il pratiquait la chasse sous-marine. C'est la journée mondiale du don du sang, collecte partout en France ce week-end, alors que les réserves de l'établissement français du sang sont très basses et que l'été est toujours un moment assez critique où les dons se raréfient. Il faut donner, appelle le directeur de l'EFS, Frédéric Pacou.
On est descendu à 72 000 poches de globules rouges, là où nous voulons en avoir 100 000 pour passer l'été sans difficulté. Il est important qu'on redémarre fortement après la période qu'on a connue, les jours fériés du mois de mai qui ont fait qu'on a moins collecté, la semaine de canicule qui a touché la France juste après au début du mois de juin, qui a aussi été une période de collecte basse. Ça explique qu'aujourd'hui, nous repartons de plus bas que d'habitude. On a besoin de mobiliser très fortement cette année pour préparer l'été.
L'appel de Frédéric Pacou a donné son sens, c'est le directeur de l'établissement français du sang.
Merci beaucoup Clara, Clara Gabillet. Il est 7h08, événement sur RMC. Vous jouez pour gagner votre prime de match, et oui, actuellement le montant de la prime, c'est 39 000 euros. Je vous rappelle qu'on ajoute 500 euros par but marqué à chaque match de la Coupe du Monde. Vous restez bien à l'écoute et au moment du top inscription, vous aurez 10 minutes pour envoyer but au 7-32-16. But au 7-32-16. Dans son journal, Clara parlait des Bleus du foot qui vont disputer leur premier match du mondial mardi face au Sénégal. Allez-vous le regarder? Si oui, est-ce que ce sera sur la télé du salon? Est-ce qu'elle est suffisamment grande? Si vous avez besoin d'en changer, Anthony Morel a des conseils à vous donner.
Mais des télés de compétition pour optimiser quand on veut regarder notamment le football. Qu'est-ce qu'il faut regarder comme critère en priorité? Je vais tout vous raconter.
Il va tout nous dire. À tout à l'heure, Anthony. Je rappelle qu'on suit Australie-Turquie au mondial de foot. Deuxième match du groupe D. Points avec toi, Clément Crescio. C'est une surprise, non? Que l'Australie mène, Clément?
Oui Anaïs, 49e minute de jeu, 1-0 pour l'Australie. Et c'est la surprise dans la domination turque dans cette rencontre. De nombreuses occasions, mais voilà, ils se sont fait surprendre en première période sur un contre. Et la deuxième période, pour l'instant, est un peu du même acabit. Ils ont failli, encore une fois, se faire percer sur un contre les Turcs il y a deux minutes à peine. Et à signaler du changement donc du côté de la Turquie, avec la sortie de Yilmaz sur le côté gauche, remplacé par Yildiz. Voilà, le sélectionneur Vincenzo Montella qui tente des choses pour essayer d'égaliser. En premier lieu.
Bah, tu nous fais signe, hein, s'il y a un but, s'il y a égalisation, on revient te voir dans la foulée. À tout à l'heure. D'ici là, un petit coup de fil à un supporter des Bleus qui a décidé de faire un truc totalement dingue pour encourager l'équipe de France. Courir 10 km à chaque but des Bleus. Ce supporter, c'est Gaspard De Grise, alias Gaspacho sur les réseaux sociaux. Et il est avec nous dans une minute. À tout de suite.
RMC, 7h-9h. 7-9, Anaïs Matin.
Anaïs Castagna.
Vous écoutez RMC, il est 7h11.
RMC.
Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et ce matin, c'est une histoire de supporter qu'on a choisi de vous raconter, l'histoire d'un supporter qui a décidé de faire un truc assez fou durant ce mondial. Bonjour Gaspard De Grise.
Bonjour.
Bonjour.
Alias Gaspacho sur les réseaux sociaux, vous allez courir 10 km autour d'un monument à chaque but de l'équipe de France. J'ai envie de dire pourquoi ? Pourquoi s'infliger ça ?
Eh bah, ben pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Surtout bah pour m'amuser principalement.
Ouais, mais vous avez pas envie de kiffer comme tout le monde sur votre canapé ?
C'est vrai que ça pourrait être une solution, mais moi j'aime bien me lancer des défis, j'aime bien faire des choses un peu différentes dans le sport et vivre surtout le foot de manière différente. Et c'est un peu la manière que j'ai trouvé de le faire.
Ouais, alors c'est pas la première fois que vous faites ça, vous l'avez fait, racontez-nous, hein. On vous connaît d'ailleurs, on avait parlé de vous, je sais pas si tu t'en souviens Fred,
dans les histoires,
dans les histoires des régions, on avait parlé de lui parce qu'en fait il le fait déjà avec son club de cœur, le LOSC, c'est ça hein.
Mais oui.
Gaspard.
Exactement, c'est ça tout à fait.
Vous j'ai couru 10 km par
du stade du LOSC. Pierre-Mauroy.
Ouais, de courir autour à Villeneuve-d'Ascq.
Du stade Pierre-Mauroy, c'est ça.
Ouais, alors combien de kilomètres en tout?
Alors, avec le LOSC, je crois que j'étais à plus ou moins 800 km ou un petit peu moins, je ne sais plus exactement.
Waouh ! Et alors là, racontez-nous exactement, comment ça va se passer là, ce défi ? Vous n'allez pas faire les kilomètres dans la foulée en fait, vous allez suivre les rencontres comme tout le monde, et le lendemain, vous ferez vos kilomètres devant un monument choisi, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Donc, je vais suivre les matchs comme tout le monde, en famille ou avec mes amis le soir du match. Et le lendemain matin, directement, je pars sur une destination, donc soit à Paris, soit ailleurs en France. J'ai vraiment fait en sorte de choisir des monuments qui sont un peu dispersés un peu partout en France. Et donc, directement, le lendemain matin, je tournerai autour d'un monument que j'ai choisi.
Ah, alors je veux tout savoir. Mardi, si l'équipe de France marque, ce sera quel monument alors ? Qu'est-ce que vous avez choisi ? Quels sont les premiers ?
Alors pour mardi, le premier, j'ai choisi l'Arc de Triomphe.
D'accord.
Je trouvais le symbole un peu sympa. C'est devant l'Arc de Triomphe sur les Champs-Élysées qu'on fête les victoires de l'équipe de France. Et je me suis dit, pour commencer le mondial, ça serait parfait.
Ouais. J'ai une proposition à faire. Ah. Régional. Hein.
Oui, parce que c'est une question, ce sera pas que des monuments parisiens. Hein.
Non, pas que des monuments parisiens, je vais aller partout en France, j'ai vraiment fait en sorte de choisir des monuments qui sont un peu dispersés, un peu partout, justement pour représenter la totalité du pays, la beauté de notre pays.
Mais comme le mondial se joue au Canada, je voulais vous proposer, Gaspacho, le monument canadien à Vimy, dans le Pas-de-Calais.
Ah oui, c'est vrai.
Ah, c'est
un territoire canadien.
Ah bah oui, j'y avais pas pensé.
Ouais, c'était un des grands épisodes de la Première Guerre mondiale. Et il y a un monument. D'ailleurs, c'est devenu territoire canadien. C'est un grand cimetière canadien.
Ouais.
C'est un grand espace de verdure. Donc, en hommage au Canada, ça peut être sympa.
Ah, c'est
ce monument
super
canadien.
Sympa avec une idée de Fred.
C'est très vert. C'est très beau. Hein. Mmh. C'est très très beau.
Et vous allez, on va vous filmer. Vous mettrez ça sur les réseaux sociaux.
Exactement. Alors, je serai en général tout seul. Là, pour le premier match, j'ai un ami qui va m'aider, comme c'est à Paris. Mais après, dans les autres villes, je serai tout seul et ça sera sur mes réseaux sociaux, effectivement.
Ah, mais on peut peut-être venir vous encourager aussi, hein.
Mais bien sûr, si, ouais. si des personnes veulent venir courir, c'est avec le grand plaisir.
Je vais dire encourager, hein, je n'ai pas dit courir. Moi, je lève la main pour
venir. Mais s'il faut.
Pour couper les citrons. Ah, les Gaspard, courir, c'est autre chose. Ouais.
Mais un ou deux kilomètres, ça le fait.
Ouais, Fred d'abord.
Moi, je marche. Ouais. Moi, je viens avec vous. Mais je non, mais c'est vrai, moi, je marche beaucoup. Je fais 7-8 kilomètres par jour.
Ouais. Alors, attends. Si la France est en finale, tu fais quoi, Fred? D'abord.
Je sais pas, je bois un coup.
Oh, bah non.
Avec modération.
Oh, bah non.
Je bois du champagne de chez toi.
Ah ouais, bah d'accord. Ouais, okay.
C'est moi. Chacun
pas capable
selon
de faire un truc un peu fou comme ça. Bon, et vous, Gaspard, il y aura quelque chose de spécial forcément si final il y a.
Alors, j'ai quelques idées. J'ai deux trois idées là, qui se battent un peu en duel. J'ai rien validé pour l'instant. Mais j'y réfléchis très sérieusement et je suis en train de voir pour valider tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques parts de doute sur ce que je fais ou non.
Bon, bah on va vous suivre en tout cas. Bravo à vous, j'adore cette idée. Je voulais absolument parler de vous, de votre histoire et on va suivre vos aventures. Moi, j'espère que vous allez beaucoup courir parce que ça voudrait dire qu'on est bon, hein. Surtout, hein. Donc,
j'espère aussi.
À très vite. On se reparle très vite sur RMC. À bientôt, Gaspard. Je voudrais prendre Tony. À bientôt, Gaspard. Je voudrais prendre Tony qui nous appelle au 32-16 depuis Saint-Tropez. Tiens, bonjour, Tony.
Oui, bonjour.
Bonjour, Tony.
DJ à Saint-Tropez d'abord. Oh, je suis obligée de dire un mot de ça parce que franchement, vous n'avez pas dormi de la nuit là? Vous sortez de soirée?
Non, j'ai pas dormi. Pas dormi parce que là, j'étais à Genève hier soir.
Ah ouais, d'accord,
pour un événement, et là je rentre. Et avec le G7 actuellement qui se passe du côté des Vian, c'était un petit peu le bazar, donc je suis allé en voiture.
D'accord,
parce que les aéroports et les gares, c'est un petit peu bouclé tout ça.
Ouais, voilà. C'est compliqué. On est ravis de vous avoir, Tony. Bon, vous nous appelez pour parler de Kylian Mbappé parce qu'on pose la question ce matin, est-ce qu'on est trop dur avec Kylian?
Non. Moi, je suis un grand fan de Kylian Mbappé. C'est juste que je suis un petit peu déçu de sa nonchalance, en fait. Je trouve qu'il fait pas assez d'efforts sur toutes les courses défensives. Et moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu, en fait, devant. C'est le capitaine de l'équipe de France, bien sûr. Bravo pour tout ce qu'il a fait. Et j'aimerais juste, en fait, qu'il se remette en question par rapport à ça. Donc ça me fait un petit peu peur et j'espère pas que ça met un petit peu la zizanie devant quoi.
Ouais.
Donc c'est ça qui m'inquiète.
Fred, qu'est-ce que t'en penses toi?
Oui, c'est à peu près les mêmes reproches qu'on lui fait au Real Madrid, quoi. Voilà, c'est de peut-être pas assez défendre, d'être
parfois
un peu trop perso.
Ouais.
Donc oui, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour les grands joueurs et les grands joueurs se voient dans les grands moments. Et une Coupe du Monde, c'est un grand moment. Donc en fait, là, on est en train de... Et c'est légitime de se poser des questions sur les performances de Kylian Mbappé. Enfin, je veux quand même rappeler que le type, on dit que ça va pas pour l'Real, meilleur buteur du championnat espagnol, première saison, meilleur buteur européen, soulier d'or européen. Mmh. La deuxième saison très compliquée collectivement pour l'Real. Il est meilleur buteur du championnat espagnol en ayant été blessé par moment aussi. Hein, donc,
Non, mais j'ai l'impression que c'est son arrogance, une forme d'arrogance qu'on lui prête, en tout cas qui agace en France. Parce qu'on n'aime pas ça.
Alors moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit là. Sauf qu'en fait, sur le collectif, le Real Madrid, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a rien gagné. Il a gagné une super coupe, je crois, la première année.
La deuxième année, oui.
Mais je veux dire, sur l'ensemble du collectif, alors oui, il y a des super stats, mais je veux dire, gagner, marquer 3 buts contre Retafé, ou je veux dire, dans les grands matchs, il n'a pas forcément été là, je trouve.
L'an dernier, si. La première saison, oui. La deuxième, c'était plus compliqué.
Il a été là face au Barça, mais résultat, à la fin du match, c'est le Barça qui gagne.
Oui. Mais là, avec la France, franchement, et le Sénégal, c'est un match compliqué dès le début. Donc là, on va l'applaudir et le critiquer dès mardi soir.
Je voudrais lire un message de Mika qui nous écrit l'une des plus grandes erreurs de Didier Deschamps aura peut-être été de nommer Kylian Mbappé capitaine. Trop clivant, il divise les Français.
Ça c'est possible. Mais bon, attention, là, c'est vrai que c'est bien français de critiquer. Après, je veux dire, c'est juste de l'inquiétude que j'ai, en fait, par rapport à l'effectif, le groupe qu'on a. ça me fait juste un petit peu peur ce côté-là.
Vous exprimez de l'inquiétude, mais pas un sentiment définitif. Et vous espérez que Kylian Mbappé vous prouve le contraire mardi.
Ouais, exactement. Ouais. J'aimerais juste qu'il se remette en question et qu'il fasse ces efforts-là et on sera tous heureux.
Voilà. Bah merci de nous avoir appelé, Tony, ce matin. Et puis, bonne nuit si vous allez vous coucher. Donc.
Freed from desire.
Ah, tu crois que... évidemment. Ah, toujours, ouais, ça. Tiens, bonne question. C'est ce qui cartonne avec le mondial. Il y a des musiques que vous passez plus que d'habitude ou alors, pas forcément
pas forcément actuellement. Je pense que ça va faire le buzz suivant les équipes qui gagnent. Quoi.
Ouais.
Donc voilà, et on espère que la France va aller loin, et peut-être que le Freedom From Desire de Gala va revenir à la mode cet été, je l'espère.
Ah, j'espère, moi aussi. Moi aussi.
Mais à des fois, on sort quand même actuellement le I Will Survive de Gloria Gaynor de l'époque 98. Ah. Il fait toujours fureur.
Ah ouais.
Et 2 et 3, 0.
Exactement.
Merci beaucoup, Tony, de nous avoir appelé. Je vous souhaite une bonne nuit. Donc, et vous restez avec nous parce qu'on va être avec d'autres supporters des Bleus ce matin qui sont à fond avant le premier match de l'équipe de France au Mondial de foot. Donc ce sera mardi face au Sénégal. On sera avec Obélix à 7h40 et avec David, membre des Irrésistibles, qui s'envole pour les États-Unis cet après-midi. Et puis Julien Laurence, notre consultant qu'on retrouve dans l'after et qui signe la biographie de Kylian Mbappé chez Marabout, sera mon invité à 8h40. Je lui demanderai justement si on n'est pas trop dur avec Kylian Mbappé. Vous continuez à me dire ce que vous en pensez. Je vous attends au 32-16 et sur WhatsApp. Une courte pause et on se retrouve dans un instant avec Anthony Morel. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. 7-9. Anaïs Matin.
Anaïs Castagna.
Vous écoutez RMC, il est 7h23. Avant de retrouver Anthony Morel, je vous rappelle les principaux titres à retenir ce matin. Victor Wembanyama ne sera pas champion de NBA cette année. Ce sont les New York Knicks qui remportent le championnat. Ils ont remporté la quatrième manche cette nuit, 94 à 90. On suit évidemment le mondial de foot. Australie-Turquie, en ce moment, c'est l'Australie qui mène 1-0. Vous avez suivi aussi hier soir, notamment sur RMC, le match entre le Brésil et le Maroc. Match nul un partout, on y reviendra dans le journal de 7h30. Et puis le détroit d'Ormuz sera ouvert à tous. Donald Trump annonce que l'accord avec l'Iran sera signé aujourd'hui, mais Téhéran parle plutôt des prochains jours. On y reviendra là aussi dans le journal. Vous écoutez RMC, il est 7h24.
RMC.
C'est déjà demain.
Avec Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour Anaïs.
Avec la Coupe du Monde, beaucoup sont tentés d'investir dans une nouvelle télé, histoire de profiter des Bleus dans les meilleures conditions. Mais pas toujours facile de s'y retrouver dans la jungle des écrans.
Voilà, entre le 4K, 8K, OLED, QLED, LCD. Voilà. Non, mais il faut avoir un doctorat en électronique, quoi, pour s'y retrouver dans les allées du supermarché. Alors, je vais pas vous dire d'acheter tel ou tel modèle en particulier, mais peut-être quelques critères à avoir en tête pour regarder le foot et le sport de manière optimale. Il y a plusieurs critères. Alors le premier, c'est la taille de l'écran. Évidemment, plus l'écran est grand, plus l'expérience va être immersive. Les télés ont beaucoup grandi ces dernières années. Maintenant, la taille standard, c'est 65 pouces, donc c'est 1m65 de diagonale. C'est quand même assez énorme. Mon conseil, c'est de pas avoir trop de complexes par rapport à ça. Avant, tu sais, on disait tout le temps, il faut avoir au moins 3 fois la diagonale de la télé entre ta télé et ton canapé pour avoir le recul nécessaire. En fait, aujourd'hui, la qualité de l'image est telle que même si on a un petit salon, il n'y a plus vraiment de problème. Il ne faut pas non plus prendre un écran énorme si tu as un canapé qui est tout
près. Écran énorme, c'est bien pendant le mondial, mais sinon c'est moche quand même.
C'est mon avis. Alors maintenant, tu en as qui se transforment en œuvre d'art. Tu sais, tu as moyen de les cacher un petit peu dans le salon. Mais c'est vrai que ce n'est pas le meuble le plus esthétique. On est d'accord, même si les écrans fins par rapport aux télés cathodiques à l'époque, tu te souviens, les cubes, c'est quand même un petit peu plus discret. Mais enfin, quand même. Donc ça, première chose, pas avoir de complexe par rapport à ça. Deuxième chose, c'est la technologie d'affichage. Alors le roi, c'est l'OLED, des couleurs, des taux de contraste incroyables, des écrans ultra fins. Le problème, c'est que ça coûte encore très cher, souvent plusieurs milliers d'euros. Il y a des écrans LCD qui sont moins chers, qui font très bien le job aussi, rapport qualité-prix excellent. Alors ensuite, peut-être que vous allez être tenté par la 8K, on en entend beaucoup parler, l'ultra haute définition. En fait, franchement, ça sert pas à grand chose. D'abord parce que la Coupe du Monde n'est pas filmée en 8K, donc déjà, il n'y a pas tellement de contenu pour ça. Et puis ensuite, parce qu'il y a des études qui ont montré que l'œil humain, en réalité, réalité n'est pas capable de percevoir la différence avec un écran 4K par exemple.
Ah, ça c'est génial. Donc si le vendeur de télé nous dit ah ça c'est 8K, c'est le top,
le mec plus ultra,
non.
Bah en fait
j'ai, moi j'ai écouté Anthony Morel, je sais qu'en fait ça change pas grand chose.
Le nez sur l'écran où là tu vas voir la différence, mais sinon globalement okay. Tu vas pas faire la différence, ça vaut pas la différence de prix en tout cas, donc c'est ça pas marche. La peine de s'embêter. Un point important en revanche, c'est le taux de rafraîchissement qui dicte la fluidité de l'image. Faut prendre autour de 100 Hz minimum. Plus il est élevé, plus l'action à l'image sera fluide et rapide. Ça va éviter les saccades. Ça, pour un match de foot, évidemment, c'est très important.
On commence aussi à voir arriver des télés avec de l'IA à l'intérieur. Ça, c'est utile ou c'est du marketing ?
Ouais, c'est beaucoup du marketing. Tu sais, maintenant, on met de l'IA partout. Il faut qu'il y ait de l'intelligence artificielle, ouais. Quel que soit le produit. Alors, c'est intéressant quand même. C'est-à-dire, on va se servir de l'IA pour upscaler l'image. Donc upscaler, ça veut dire tu pars d'une image qui est un peu médiocre et tu vas améliorer sa qualité. On va s'en servir aussi pour ajuster automatiquement les couleurs, les contrastes, la luminosité en fonction du contenu affiché, c'est-à-dire que elle va comprendre ce que tu es en train de regarder, elle va faire la différence entre un film d'horreur et un match de foot par exemple, elle va pas mettre les mêmes taux de luminosité, de contraste, etc. Donc ça, c'est pas mal. Le dernier conseil pour les télés, c'est quand même de s'y prendre le plus rapidement possible. J'allais dire, on est presque déjà un peu trop tard. Les meilleures promos en général, c'est plutôt en avril-mai. Et plus on se rapproche de l'événement, et encore plus quand l'événement a commencé, eh bien, plus les consommateurs sont captifs et plus les prix vont augmenter. Donc soyez aussi attentifs à ça.
Merci beaucoup, Anthony. Il est 7h27, vous écoutez RMC. On suit évidemment Australie, Turquie au mondial de foot avec Clément Crécio. Clément, les Turcs n'y arrivent pas ?
Les Turcs n'y arrivent pas et pourtant ils multiplient les occasions, ils font le siège de la surface depuis plusieurs minutes. Alors là, c'est l'hydration break, vous le savez, maintenant il y a des coupures en plein milieu des périodes de jeu pour cette Coupe du Monde. Donc la petite pause pour les joueurs, peut-être des ajustements tactiques du côté des Turcs. Ça fait de longues minutes qu'ils sont à côté de la surface, aux abords de la surface australienne, que Kenan Yildiz multiplie les tirs, ils essayent, ils n'y arrivent pas. Il y a toujours un défenseur australien pour contrer le ballon. Patrick Beach, le gardien australien, il n'est pas en train de se dorer la pilule, multiplie les arrêts. Et pour l'instant, les Turcs, on est à la 68e minute, ils n'y arrivent pas, il y a toujours un zéro. C'est pour l'instant un petit peu le hold-up australien. Et on sent que le chrono tourne et les supporters turcs commencent un peu à désespérer.
On va te retrouver, tu suis tout ça pour nous, pour RMC. Merci Clément, à suivre. Deux supporters de l'équipe de France qui sont à fond. Elder de Magalès, alias Obélix, viendra sur le plateau d'Anaïs Matin. On sera aussi avec David, membre des Irrésistibles, qui part cet après-midi aux États-Unis. À tout de suite. Vous écoutez RMC, il est 7h30.
RMC 7-9, Anaïs Matin.
Bonjour Grégoire Morelli.
Bonjour Anaïs, bonjour à toutes et à tous. Match nul entre le Brésil et le Maroc. Victoire de l'Écosse face à Haïti. On fait le point sur les derniers résultats de la Coupe du Monde. La France, elle fera son entrée en lice mardi face au Sénégal. Les Knicks, sacrés champions de la NBA face aux Spurs de San Antonio. Et des rassemblements prévus demain devant les tribunaux de France dans le sillage de l'affaire Liana pour réclamer une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles.
RMC Coupe du Monde 2026.
Toute la compétition est donc à suivre sur RMC en ce moment. C'est l'Australie qui affronte la Turquie. L'Australie qui mène 1-0 pour l'instant.
Toujours 1-0. Cette nuit, on le disait, c'est le Brésil qui jouait contre le Maroc. Les Lions de l'Atlas ont ouvert le score à la 23e minute.
La frappe de Saïbari, but !
Ce but de Saïbari commenté par Jean-Louis Tour, la Seleção a réussi à égaliser grâce à un but de Vinicius. Résultat final, un partout aussi entre la Suisse et le Qatar. Victoire en revanche pour l'Écosse face à Haïti, 1-0. Et à suivre ce soir, Allemagne Curaçao, 19h. Ce sera ensuite aux Pays-Bas d'affronter le Japon à 22h.
L'entrée en lice des Bleus, ce sera mardi.
Eh oui, face au Sénégal et à deux jours de la rencontre, la sélection tricolore fait bloc avec son capitaine Kylian Mbappé, qui fait face à de nombreuses critiques, Valentin Jamin.
Oui, car le Français n'a pas gagné de titre cette saison avec le Real Madrid. Certains supporters ont demandé son départ malgré son statut de meilleur buteur du championnat espagnol. Le défenseur Lucas Hernandez le défend.
Quand t'es Kylian Mbappé, tout le monde te regarde beaucoup plus avec la loupe, on va dire. C'est jamais facile d'être Kylian Mbappé. C'est quelqu'un de très motivé. Toutes les critiques, il va bien les taire.
Rassembleur depuis le début de la préparation, le capitaine français, malgré son air parfois sûr de lui, est un bon leader, assure Aurélien Tchouaméni. Son coéquipier coéquipier en club et en sélection.
C'est déjà un leader technique, mais aussi en dehors du terrain, il a beaucoup de voix, que ce soit avant les matchs, à la mi-temps ou aussi après les matchs, il a cette capacité à transcender un peu tout le monde.
Le ballon d'or Ousmane Dembélé, qui pourrait prétendre jouer au même poste que Mbappé, l'a aussi défendu dans la presse espagnole et le milieu Manu Koné lui fait confiance.
On sait qu'il sera prêt, on sait que c'est une compétition auquel il a toujours répondu présent et on a confiance en lui, c'est notre capitaine, il fera de grandes choses.
Mbappé pourrait devenir le meilleur buteur de la Coupe du Monde et de l'histoire des Bleus pour éloigner ses éternelles critiques.
Valentin Jamin pour RMC.
Les Knicks de New York, sacrés champions de NBA.
La victoire face aux Spurs de San Antonio qui ont pourtant mené la rencontre pour finalement céder lors du dernier carton. Une défaite au goût amer pour Victor Wembanyama, il s'en veut énormément, écoutez.
On n'était pas prêts. J'étais pas prêt à gagner une bague, c'est évident. Je pense qu'en termes de volonté de bien faire, d'intensité, d'effort, on était à un bon niveau, j'étais à un bon niveau. On manque pas de talent, on manque pas de capacité, c'est vrai. On fait trop d'erreurs, je fais trop d'erreurs. Tu travailles encore plus dur, évidemment, pour être encore plus durable. Et surtout garder l'esprit frais, garder un contrôle sur le jeu. Ça part pas de mauvaises intentions, mais il y a trop de moments où je suis passif, trop de moments où j'ai pas le contrôle sur le jeu que j'aimerais avoir, et ça nous coûte.
Il est dur avec lui-même.
Très dur. Fallait le voir en interview, là, le visage complètement défait. Ouais. C'est un coup dur pour Victor. On en vient au reste de l'actualité. Donald Trump qui assure qu'un accord avec l'Iran sera signé aujourd'hui pour le jour de son 80e anniversaire. Peut-être 4 mois après le début de la guerre et des semaines de négociations, le président américain affiche son optimisme. Axel Monnier.
La question n'est plus de savoir s'il y aura un accord cadre, là-dessus tout le monde semble s'accorder, mais plutôt quand celui-ci sera signé. Le Pakistan a déclaré à 2 reprises ce samedi que ce serait acté dans les 24 heures. Mais l'Iran dit vouloir prendre son temps et semble surtout, en coulisses, refuser de faire ce cadeau d'anniversaire à Donald Trump qui fête ce dimanche ses 80 ans. Le président américain, qui n'est pas apparu publiquement ce samedi, l'affirme sans détour sur son réseau social. Pourtant, non seulement le protocole d'accord sera bien signé ce 14 juin, mais cela entraînera en plus, dit-il, la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz. Mais entre la volonté de Donald Trump et la réalité des discussions, on l'a souvent vu, il y a une différence. Surtout que, contrairement à ce qu'affirme le président américain, cet accord cadre n'est qu'un début. Des négociations techniques d'une durée de 60 jours devront régler les nombreux problèmes qui demeurent, notamment la question du nucléaire iranien.
Sébastien Lecornu ne pense pas qu'une unique loi, aussi utile soit-elle, pourrait tout facilement régler. Une réponse du Premier ministre au défenseur d'une loi dite intégrale contre les violences sexistes et sexuelles après l'affaire Liana. Car depuis cette affaire, on entend parler partout de cette loi intégrale, aussi appelée loi cadre. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est et surtout que contient celle sur les violences sexistes et sexuelles, Léonie Guilbeault?
Une loi intégrale de 79 articles avec en mesure phare, par exemple, la création d'unités de police et de juridictions spécialisées ou encore un entretien annuel pour chaque enfant afin de détecter d'éventuelles violences.
C'est une loi qui inclut prévention, répression, solidarité, santé.
Suzy Rotman, porte-parole du collectif national pour le droit des femmes.
C'est-à-dire qu'on essaye de réfléchir pour traiter le problème globalement.
Traiter le problème globalement et pas seulement par des mesures répressives votées au coup par coup au fil des faits divers. C'est possible, selon elle, en s'inspirant du modèle espagnol qui existe depuis 2004. Il ne s'agit que de volonté politique, assure-t-elle.
À ce niveau-là, qu'on voit, on peut faire passer ça en procédure accélérée. Considérer que les violences que subissent les enfants et les femmes, c'est-à-dire plus de la moitié de l'humanité, c'est quelque chose de suffisamment important pour qu'on y consacre un certain nombre de jours au Parlement.
Le financement s'élèverait à presque 3 milliards d'euros, selon les premières estimations. Un montant dérisoire, selon Suzy Rotman, comparé au coût engendré à long terme par les violences sur les femmes et les enfants.
Et de nouvelles mobilisations sont prévues en France demain pour dénoncer les manquements de la justice dans la protection des enfants après cette affaire Liana où le principal suspect faisait l'objet de plusieurs plaintes. Ces nouveaux rassemblements partout en France. On en parlera à 8h10 avec Sarah Forestier, actrice et membre de l'association MeToo Media qui appelle en partie à ces mobilisations. La SPA ouvre ses portes ce week-end. L'association invite les Français et Françaises à adopter les quelques 330 000 animaux recueillis dans les refuges. Un chat ou un chien est abandonné toutes les 2 minutes en France et l'été constitue l'une des pires périodes en matière d'abandon. Mais c'est pourtant aussi le meilleur timing pour adopter. Exemple dans le refuge SPA d'Orgeval avec Gabriel Laprade.
Derrière la porte métallique verte,
on a 3 chenils. Ça, c'est le chenil Shiva.
Des dizaines de bugs sont alignés, tous occupés, nous dit dit le responsable du refuge, Victor Gagouchiden.
Là, vous avez Aurel qui est juste devant, vous avez Pixie, c'est plein, je vous dis, il me reste 2-3 boxes vraiment sur de l'urgence, urgence.
La SPA d'Orgeval reçoit chaque jour 5 demandes d'abandon d'animaux, un chiffre qui peut tripler en été. Mais malgré ce terrible constat, à quelques semaines des grandes vacances, Victor appelle à sauter le pas de l'adoption.
On invite effectivement les gens à se dire, est-ce que c'est pas le moment pour nous, maintenant qu'on a du temps, maintenant qu'on est un peu plus détendu, d'accueillir un nouveau membre de la famille à ce moment-là.
Corinne pousse pour la première fois les portes de la SPA, formulaire d'adoption dans les mains. La mère de famille de 53 ans a flashé sur un chien nommé Dexter.
C'est un croisé griffon. Il est noir, gris, il a 1 an. On avait pensé prendre un chiot. Et finalement, en fait, en venant ici, on se rend compte que c'est peut-être pas forcément ce qu'on veut. Un chien, en fait, qui a déjà 1 an ou 2 ans, voilà, nous conviendrait bien.
Et pendant ses vacances d'été, Corinne a déjà tout prévu pour garder Dexter. Elle pourra compter sur ses voisins et ses nombreux amis.
Gabriel Laprade pour cette fin de journal.
Merci beaucoup Grégoire. On retourne tout de suite voir Clément Cressio qui suit Australie-Turquie. Deuxième but pour l'Australie. Clément.
Eh oui, l'Australie qui a fait le break encore une fois un peu contre le cours du jeu. Possession australienne, une passe à moitié contrée par un joueur turc qui revient dans les pieds du meneur de jeu Metcalf. Il arrive à frapper en dehors de la surface un tir à rebond qui vient tromper le gardien turc. Ça fait donc 2-0 pour l'Australie. On est à la 78e minute de jeu et rien ne va pour les Turcs. À l'instar de ce tir à l'instant, un tir magnifique arrêté par le gardien australien. Ils n'ont vraiment pas de réussite, les Turcs, dans cette rencontre. 2-0 donc pour l'Australie qui crée la surprise ici.
Ouais, Fred Hermel n'en revient pas. Hein.
Les Turcs n'ont pas forcément de grosses occasions.
Ouais.
C'est-à-dire que techniquement, ils sont meilleurs, ils dominent, ils ont la balle. Les Australiens sont d'une efficacité impressionnante. C'est peut-être la première grosse surprise de ce mondial. Hein, pour l'instant.
Et on y reviendra. On suit la rencontre avec toi, Clément. Tu restes connecté, évidemment. Et tu nous fais signe dès qu'il se passe, dès qu'il y aura un nouveau but, potentiellement. Il est 7h38. Une courte pause et on se retrouve dans un instant avec des supporters de l'équipe de France qui sont à fond. Je suis notamment avec Obélix en plateau.
C'est impressionnant. Que, ouais, c'est j'avais jamais rencontré en vrai.
Moi non plus, j'avais jamais vu. C'est
ouf, c'est quelque chose.
Et on sera aussi avec David dont l'avion pour les États-Unis décolle cet après-midi. Il est connecté avec nous. À tout de suite.
RMC 7h-9h. 7-9, Anaïs Matin.
Anaïs Castagna.
Vous écoutez RMC, 7h41.
RMC.
Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Évidemment, c'est l'événement cette semaine, le Mondial de foot qu'on suit en direct sur RMC, le match Australie-Turquie qu'on suit en ce moment même et qui est assez dingue, hein, n'est-ce pas Fred Hermel, puisque l'Australie mène 2-0, ce qui est assez surprenant. Clément Cressio suit la rencontre pour nous. Est-ce qu'il est là? Tiens Clément, un petit point juste avant d'accueillir mes invités. Clément.
Bien sûr, toujours présent. 2-0 pour l'Australie, 83e minute de jeu, le chrono qui file indubitablement, et les Australiens qui ont l'air de se diriger vers une première victoire dans ce mondial. C'est un peu la surprise de ce début de compétition, on va dire, face à des Turcs dominateurs techniquement, qui ont eu beaucoup d'occasions, des tirs, mais qui n'ont pas réussi à la mettre au fond, au contraire des Australiens. 2-0 donc, 83e minute de jeu à Vancouver.
Je reviens vers toi dans quelques minutes, donc Clément. D'abord, parlons de ce qui nous préoccupe sans doute malgré tout le plus. Nos Bleus, jusqu'où vont-ils aller? Des supporters d'équipe de France sont en direct avec nous ce matin sur RMC. Elder de Magalès, patron d'une entreprise en région parisienne qui est venu sur RMC déguisé. Beau déguisement, hein, Obélix. Bonjour Elder.
Bonjour Elder.
C'est absolument magnifique. On va revenir sur votre déguisement dans un instant. D'abord, si vous le voulez bien, on va prendre David Lossignol, juriste de 48 ans, supporter de l'équipe de France et membre des Irrésistibles Français. Bonjour David.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous n'êtes pas venu en plateau parce que donc vous êtes vous apprêtez à partir pour les États-Unis. Vous êtes en train de finir la valise, c'est ça?
En train de finir la valise et de regarder l'Australie-Turquie.
Ah, vous aussi, vous hallucinez de ce que vous êtes en train de voir, d'entendre l'Australie qui mène 2-0.
Ouais, ils sont jamais faciles à jouer, l'Australie. On avait eu du mal en 2018. On avait mis un but à la fin, raccro, Pogba a contré. Et là, ils sont très efficaces. Donc, une équipe à suivre.
Et donc, revenons à ce qui m'intéresse. Vous partez cet après-midi pour les États-Unis. La chance, quand même, vous vous rendez compte?
Ah oui, tout à fait. Ouais. Plus j'en parle, plus je me rends compte que j'ai de la chance de pouvoir partir, effectivement.
Comment vous avez fait
quatrième Coupe du Monde, ouais.
Quatrième Coupe du Monde, ouais.
Exactement.
Comment vous avez fait pour obtenir des billets? Parce que c'est quand même hors de prix.
Bah, la chance d'appartenir aux IF, comme on est assez actif, on a des places qui sont réservées. Donc, vu qu'on est aux États-Unis et que pas tout le monde peut se permettre de partir, ça permet d'avoir des places, puis l'assiduité aussi au niveau des matchs, donc créer une priorité aussi au niveau attribution. Dans les IF, c'est assez juste ce qui se passe dans les IF au niveau attribution place. Donc, voilà, c'est pour ça. La chance aussi d'avoir pu mettre un peu de côté et de prévoir ça un petit peu à l'avance.
Je peux vous demander combien ça vous coûte? C'est un budget de combien?
Pour le premier tour, on est à peu près à 4 500. 4 500, 5 000, puisqu'il y a les vols. Il y a la voiture à louer, le logement. Puis j'ai mon fils et ma femme qui me rejoignent, donc c'est tout compris pour tout le monde.
Waouh, ouais, mais c'est quand même un sacré billet. En fait, faut être riche presque pour faire ça. Non, mais c'est incroyable. Pourquoi vous le faites? Pourquoi c'était important d'y aller?
La passion. Ça, je suis l'équipe de France depuis que j'ai 4 ans, que je me souviens. Match très difficile de 82, c'est un des mes premiers souvenirs.
Ouais.
Je suis la France à chaque fois. Je me déplace aux certains matchs au Stade de France ou au Parc des Princes, des matchs à l'étranger aussi. Et Coupe du Monde, comme je dis, c'est la quatrième. Alors j'ai pas fait tous les matchs de toutes les quatre Coupes du Monde, mais la première vraie Coupe du Monde, c'était en France en 98. J'ai pu faire pas mal de matchs. Donc voilà, c'est une habitude et puis c'est un événement incroyable. Donc, quelque chose qu'on peut pas rater.
Et cette année, cette fois-ci, ce sera spécial puisque vous y allez avec votre enfant. C'est la première fois que vous faites avec.
Exactement. Mon fils de 9 ans va venir. Donc j'ai 3 enfants, un qui est plutôt rugby, un qui a 4 ans, une petite fille qui est encore trop jeune, et puis mon fils de 9 ans qui est à fond dans le foot. Et lui, c'est voilà, ça va être sa première full Coupe du Monde. On avait été voir la finale ensemble en 2022. C'est son premier match dans un stade. Donc là, il a hâte de faire l'épopée Coupe du Monde. On avait fait l'épopée Euro ensemble. C'est en Allemagne, parce que j'habite pas loin, donc c'était assez facile.
Ouais.
Donc là, vraiment,
D'accord, donc vous avez quand même, malgré tout, déjà fait des choses...
on a fait des choses ensemble, mais là, Coupe du Monde, c'est autre chose.
Ouais, c'est
autre chose.
C'est une autre dimension.
Donc là, et puis faire un suivi de l'équipe, c'est pas du tout la même chose qu'aller voir un match.
Ah bah, c'est sûr. Et c'est des souvenirs pour toute la vie, là, ce que vous êtes en train de faire.
Exactement. Je me souviens encore de la Coupe du Monde 98 comme si c'était hier. Donc, et là, le faire avec son enfant, c'est encore plus sympa.
J'espère que ça se terminera de la même manière. Restez avec nous, David. Je suis avec un autre supporter de l'équipe de France en plateau, Elder, alias Obélix. D'abord, Elder, est-ce que ça vous fait rêver d'entendre David?
Alors oui, ça me fait rêver, mais en tant que tailleur de menhir, c'est pas si simple que ça de traverser l'Atlantique.
Donc,
je vais pousser.
Il y a un surplus de bagages.
C'est ça. Oui. C'est compliqué les visas en ce moment, donc faut attendre.
Oui, parce que donc Elder, il est venu déguisé en Obélix, donc maillot de l'équipe de France, mais vraiment les nattes d'Obélix.
Faites de ce matin.
Ouais. Pourquoi se déguiser comme ça?
Bah parce que Obélix, c'est un symbole français.
Ouais.
Tout le monde le reconnaît. C'est celui qui est force en potion magique. C'est
pour leur donner de la force.
Mais bien sûr.
Ouais.
C'est le gentil et il nous faut justement de la force pour aller chercher cette Coupe du Monde.
Vous y croyez?
Oui, j'y crois. Dur comme du fer.
Dur comme du fer.
Oui. Hein?
Dur comme le menhir.
Dur comme le menhir.
J'aurais pu le dire. Oui, en effet.
C'est vrai. Vous voyez la France gagner. France en finale déjà.
Ah non, mais comme l'a dit un philosophe Kylian Mbappé, à juste titre, on n'y va pas pour aller en finale, on y va pour gagner, sinon on n'y va pas. Donc on va aller gagner la Coupe du Monde, on a la plus belle équipe, avec peut-être le Portugal. Je pense qu'il ne faut pas rougir. Alors j'entends beaucoup qu'on a peur du Sénégal, de la Norvège. Enfin, si on veut gagner une Coupe du Monde, il faut les battre. Et moi, à la différence de David, je suis un peu plus moins ancien. Ma première Coupe du Monde, c'était 98, vraiment, un souvenir. Et puis il y avait le Brésil. Et on a gagné 3-0.
Vous avez quel âge?
J'avais à l'époque 11 ans.
Ah oui, bah à peu près comme moi. Ouais. Ouais, j'avais 11 ans ouais, aussi.
Et on s'en souvient toute une vie. Et il y avait le grand Brésil avec le grand Ronaldo et on a gagné. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas gagner cette Coupe du Monde, sachant qu'aujourd'hui, c'est plutôt nous qui avons ce type de joueurs dans notre équipe.
David, vous êtes d'accord avec ça? Confiant?
Oui, confiant. Oui, on a une solide équipe. Faut juste bien aborder le premier match de groupe. Après, on peut encore s'attraper au deuxième ou troisième si on a une contre-performance, parce que c'est jamais facile de rentrer dans une Coupe du Monde. Mais on a une équipe très solide pour aller loin.
Premier match compliqué quand même. démarrer par le
Sénégal.
Par le Sénégal, ouais. Il y a pas de tour de chauffe, quoi. C'est-à-dire que tu commences par une défaite, tu te mets en danger d'entrée, quoi. Donc c'est pas la meilleure équipe pour débuter, hein, quand même.
Non, c'est pas la meilleure équipe, mais s'il y a une équipe qui peut relever ce défi, c'est bien l'équipe de France. J'ai cru comprendre que Saliba est en train de revenir de blessure. On a une bonne défense, on a la meilleure attaque au monde. Il faut être confiant.
Mais il manque un peu de créativité au milieu.
J'en ai pas parlé.
Et alors, qu'est-ce que vous pensez de notre capitaine? On a ce débat ce matin avec nos auditeurs. Est-ce qu'on est trop dur avec lui?
J'ai un gros coup de gueule, moi, là-dessus.
Ah ouais, c'est vrai?
Ouais, vraiment.
Bah, c'est Obélix. Donc,
voilà, Obélix va parler à tous les Gaulois. Alors, je sais que c'est très gaulois de se chamailler. Même dans mon village, c'est ce qu'on fait. Mais à un moment donné, pour aller gagner la Coupe du Monde, il va falloir un peu d'unité. Et j'entends, et notamment même chez des amis Lefort, que l'équipe de France, limite, serait meilleure sans Kylian Mbappé. Ouais. Il faut arrêter. Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur au monde. On ne gagnera cette Coupe du Monde que si on a un grand Kylian Mbappé. Alors, on a de très grands joueurs. On peut avoir des fans pour Olise, Dembélé et encore d'autres joueurs que j'oublie. Mais la France gagnera qu'avec un grand Kylian Mbappé. Donc, il faut arrêter de diviser. Il faut être derrière notre équipe et derrière notre Kylian Mbappé qui fera tout coup sûr une énorme Coupe du Monde. Je le signe maintenant.
David, vous êtes d'accord avec ça?
100%. Très bien dit, Obélix. Astérix n'aurait pas dit mieux. Donc,
merci
vraiment,
David Dix.
C'est tout à fait ça.
Non, Kylian, on a besoin de Kylian. C'est très solide, capitaine. Il est généralement, il répond présent dans les matchs quand on a besoin de lui. Donc, on a vu ça dans la finale 2022. Il y avait un extraterrestre sur le terrain et puis il y avait 21 autres acteurs. Donc, bon. Voilà, donc je suis sûr qu'il va faire une énorme Coupe du Monde. Quand on aura besoin de lui, il sera là. Mmh. Et on espère aller loin avec lui, bien sûr.
Et Obélix, je vous ai pas demandé. Je vous appelle Obélix. Hein,
oui, mais oui.
Mais vous êtes. Je suis Obélix. Obélix. Obélix, vous allez la vivre comment, cette Coupe du Monde?
Je vais la vivre intensément. Je vais écumer les fan zones.
Ouais, c'est ce que fan zone, bar,
bien sûr. Et de ce dès mardi, pour supporter l'équipe de France. Et on poussera de telle sorte à que ça traverse l'Atlantique et que ça encourage nos petits Gaulois.
Que ça encourage nos petits Gaulois. Tu sens, toi, la ferveur monter dans le pays?
Depuis ce matin, oui.
Ah ouais?
Le fait d'avoir Obélix, Elder. Non, et puis les commentaires. On sent que ça, dans les messages sur le WhatsApp 0612 424 424, on sent que les gens commencent.
Que les gens ont.
Voilà,
envie.
Parce que la Coupe du Monde, enfin, c'est à partir du moment où son équipe commence à jouer qu'on est en plein dedans, quoi. Voilà. Donc, et là, c'est après-demain. Donc là, oui, ça commence à monter, là.
Vous nous dites, comment vous allez suivre cette rencontre, mardi prochain, France-Sénégal, premier match des Bleus. J'espère qu'on va vibrer, en effet. On peut pas se quitter sans vent, j'ai envie de dire, un bon cri de guerre. Alors, évidemment, tous ensemble, il y a David qui est en ligne avec nous, en train de finir sa valise avant de partir pour les États-Unis. Mais pas seulement, il y a Obélix. Et Obélix, il est venu accompagné avec ses enfants ce matin.
Oui, avec deux petits Gaulois, Louix et Nicolix.
Salut tous les deux, ravi de vous accueillir sur RMC. Est-ce qu'on peut espérer un cri de guerre pour l'équipe de France? Allez, à deux jours du premier match des Bleus, on y va? Qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme cri de guerre, Obélix? Qu'est-ce que vous nous faites ce matin sur RMC? Qu'est-ce que vous avez envie de nous faire?
On fait quoi? Allez les Bleus, ramenez-nous la coupe à la maison.
C'est oui, parti.
Marseille, qu'est-ce qu'on fait?
Allez comme vous voulez.
Allez-y,
on vous aide un peu. Allez les Bleus, sinon je vais être obligé de chanter. Hein.
Allez les Bleus, allez les Bleus. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier que vous allez pousser, les garçons?
Dembélé, deuxième ballon d'or.
C'est mignon.
C'est les nouvelles générations, ça.
Parce que c'est des fans du PSG aussi.
Et oui, c'est ça. Hein, ouais. C'est l'époque d'or, l'âge d'or du PSG.
Ah, mais c'est vrai que, alors, il faut quand même dire que Obélix, c'est aussi un fan du PSG. Donc, il espère vibrer deux fois parce qu'il a eu des émotions de fou.
Il a
vu la finale en direct à Budapest. Vous y étiez.
Tout à fait.
C'était dingue.
C'était incroyable. Mais si l'équipe de France va en finale, on va voir ce qu'on peut faire pour y être.
Ah, c'est vrai?
Eh oui.
Ouais. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin en direct sur RMC. C'était un plaisir de vous avoir. David, je vous laisse finir la valise. Et on se retrouvera tout au long de ce mondial. Vous nous rappelez ?
Pas de souci.
Et puis on débriefe ensemble les prestations des Bleus et donc notamment de notre capitaine Kylian Mbappé. Merci à tous, merci Obélix, merci les enfants d'être venus ce matin sur RMC. 7h54, on marque une toute petite pause. On se retrouve évidemment pour suivre Australie-Turquie, l'Australie qui mène 2-0. C'est la grosse surprise là de la matinée, de ce début de mondial aussi. Et puis on aura aussi le bonus de Fred. À tout de suite.
RMC 7-9, Anaïs Matin,
Anaïs Castagna.
Écoutez, RMC, il est 7h55, on suit Australie-Turquie ensemble ce matin au match du Mondial. Surprenant puisque l'Australie mène 2-0, c'est la fin du match, c'est la fin de la rencontre, Clément Ancretio.
Eh oui, on est à la toute fin du temps additionnel, il reste encore une poignée de secondes, moins d'une minute à disputer. Et vous l'avez dit, 2-0 pour l'Australie qui mène ici. Les Turcs qui n'ont jamais réussi à passer cette défense australienne. Allez, petite statistique pour vous, 30 tirs du côté turc, 8 tirs cadrés et 0 but. Voilà, 2-0 pour l'Australie qui crée la surprise ce matin dans ce groupe D qui comprend aussi les États-Unis et le Paraguay. Voilà, il reste encore quelques secondes à jouer, ce sont les Turcs qui ont la balle, mais ils n'auront pas le temps de revenir. La victoire sera pour les Socceroos, les Australiens donc, pour leur premier match de ce mondial. Allez, encore quelques secondes à jouer, on tente une dernière offensive du côté turc sur le côté droit avec Güler au duel avec son vis-à-vis, mais là il est marqué tout de suite, il est pris, impossible de passer. Et ce sera la fin du match sifflé par monsieur l'arbitre, il me semble, à l'instant. Tout à fait, 2-0. Voilà, c'est l'Australie qui l'emporte face à la Turquie pour ce premier match de la compétition entre les deux équipes. 2-0, c'est la surprise à Vancouver. Les Australiens ont pris le meilleur sur les Turcs qui peuvent être franchement déçus.
Merci beaucoup Clément Cressiot d'avoir été avec nous ce matin. Grosse surprise pour Fred Hermel qui n'en revient pas. Brièvement Fred, ton bonus, tu nous parles rapidement de cette musique qu'on entend à l'entrée des joueurs dans les stades de la Coupe du Monde.
Ah oui, c'est ouais. Sérieux.
Ah ouais.
Bah oui, tu connais. La musique, c'était mieux avant, ma chère Anaïs. La preuve, c'est dans les années 80 que les organisateurs de la Coupe du Monde sont allés chercher Sirius, ce morceau mythique et peut-être le plus connu de The Alan Parsons Project. Ce n'est pas la première fois que cette musique de la grande époque des synthétiseurs est utilisée pour le sport, puisqu'elle accompagnait déjà l'apparition sur le parquet des joueurs des Chicago Bulls dans les années 90, du temps où Michael Jordan, Scottie Pippen ou encore Dennis Rodman dominaient la NBA. Basket ou football, ça fonctionne à merveille.
Bah merci, hein, c'était l'occasion de l'entendre ce matin.
Elle est super cette musique.
Elle est super. Merci beaucoup Fred Hermel. On marque une courte pause. On se retrouve évidemment pour le journal de 8h. On reviendra évidemment sur ce match qui vient de se terminer. Victoire de l'Australie 2-0. Et puis vous aurez aussi les autres résultats de cette Coupe du Monde. À tout de suite sur RMC.
RMC.
Anaïs Matin.
Vous écoutez RMC les 8h.
RMC 7-9, Anaïs.
Bonjour Clara Gabillet.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Elles seront devant les tribunaux chaque lundi tant qu'une loi intégrale ne sera pas votée contre les violences faites aux enfants. Les associations maintiennent la pression sur le gouvernement après la mort de Liana. L'accord avec l'Iran sera-t-il signé aujourd'hui ? C'est la promesse de Donald Trump, mais Téhéran repousse de plusieurs jours. Alors que les joueurs iraniens arrivent à Los Angeles pour le mondial, nous serons en direct. Et la surprise australienne qui vient de l'emporter 2-0 contre la Turquie.
C'est une réponse intégrale qui doit être apportée après la mort de Liana.
C'est ce que dit le Premier ministre dans le journal Le Parisien. Réponse intégrale, mais pas une loi unique, dit-il. Sébastien Lecornu ne pense pas qu'elle pourrait tout régler au dysfonctionnement de la justice révélé après la mort de la collégienne. C'est pourtant une loi intégrale, une réforme globale que demandent de nombreuses associations pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles contre les femmes et les enfants. Elle est portée par une centaine de députés, cette loi. Et tant qu'elle ne sera pas votée, les associations appellent à manifester tous les lundis devant les tribunaux, comme à Bordeaux. Reportage de Pierre Bourgès.
Pour demain soir, cette étudiante bordelaise a déjà prévu son programme.
On se mobilise. C'est hyper important de continuer d'en parler. Ça fait vivre notre parole et c'est ce qui est important.
Lundi dernier, une première mobilisation devant le tribunal de Bordeaux avait rassemblé des milliers de personnes. Pour Émilie, il ne faut pas s'arrêter là.
Tant qu'il n'y aura rien de concret qui sera fait, on continuera à être là, on continuera à parler, on continuera à porter notre voix. Il y a vraiment toute une problématique systémique et structurelle à revoir. Là, c'est
C'est assez aberrant. Ouais.
Une proposition de loi intégrale pour mieux protéger les femmes et les enfants des violences sexistes et sexuelles pourrait être discutée dans les prochains mois. Il est question de la création d'unités judiciaires et de juridictions spécialisées, mais ce n'est pas assez pour Caro Fabre, co-référente du collectif Enfantisme Gironde.
J'ai bien peur que certains axes soient mis de côté ou oubliés. On ne parle pas de l'imprescriptibilité. Et puis, il n'est pas question des moyens. Si on ne se donne pas les moyens, j'ai envie de dire qu'une loi, elle ne sert pas à grand-chose si ce n'est qu'à faire un effet d'annonce.
D'autant que le coût de cette loi est estimé à 2,7 milliards d'euros par an, selon les députés.
Pierre Bourgès à Bordeaux pour RMC. Patrick Bruel visé par deux nouvelles plaintes déposées avant-hier contre le chanteur. L'une dénonce une tentative de viol et une agression sexuelle en 2007 en marge du Festival du film de La Réunion. L'autre, un viol et une agression sexuelle en 2012. Des milliers de manifestants attendus cet après-midi à Genève en Suisse. Pour dire non au G7 qui s'ouvre demain à Évian, à la frontière franco-suisse, des syndicats, des associations et des partis de gauche appellent à boycotter ce sommet international. Plusieurs milliers de policiers déployés car l'on redoute des débordements sur place. Mais Guillaume Durin assure qu'il se passera dans le calme ce rassemblement. Il est membre du collectif écologiste Break Free Suisse.
Moi, ce que je vois, c'est une atmosphère bon enfant. Je sens absolument aucune tension. Ce qui me fait peur et m'hallucine, c'est les cortèges policiers sans précédent. Genève, c'est pas du tout comme ça d'habitude. On voit les policiers qui viennent aussi, qui montrent leur force. C'est ça la liberté d'expression. On est en 2026, on en est là. Tout ça, c'est ubuesque. Notre intérêt, c'est une mobilisation générale. Bien sûr, il faut absolument que les choses se passent bien. Mais on sait que parfois, des dispositifs policiers à Genève, récemment, on fait dégénérer des manifestations.
Et un sujet sera inévitablement au cœur des discussions de ce G7, l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Toujours très flou, hein, ce matin, Donald Trump assure qu'il sera signé aujourd'hui, mais Téhéran dément et repousse au prochain jour. Lucas Laubert, vous êtes en direct avec nous. Lucas, c'est une question de temps.
Oui, mais la question, c'est combien de temps? Donald Trump, le président américain, affirme que la signature du protocole d'accord est prévue aujourd'hui, un cadeau qu'il aimerait s'offrir pour son anniversaire ce dimanche, qu'il fête en grande pompe avec un tournoi de MMA à la Maison-Blanche. Dans la journée hier, le premier ministre pakistanais, pays médiateur, avait lui aussi annoncé que la signature pourrait avoir lieu dans les 24 heures. À Téhéran, c'est un discours différent. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a déclaré que l'accord n'était pas au programme aujourd'hui, mais plutôt dans les prochains jours. Alors maintenant, que contient ce compromis? Selon Donald Trump, les États-Unis iront récupérer l'uranium enrichi en Iran au moment opportun. Et dès la signature, le détroit d'Ormuz sera ouvert à tous, a-t-il également assuré.
Lucas Laubert, difficile de ne penser qu'au football dans ce contexte. Et pourtant, c'est aujourd'hui que les joueurs iraniens doivent arriver aux États-Unis pour le mondial.
RMC Coupe du Monde 2026.
Eux qui sont depuis plusieurs jours dans leur camp de base au Mexique, Nicolas Pelletier, vous êtes en direct de Los Angeles ce matin, là où les joueurs iraniens sont attendus en fin de journée.
Oui, une image qui va entrer dans l'histoire de la Coupe du Monde. D'après les derniers échos que l'on a obtenus, les Iraniens doivent décoller de Tijuana entre 19h30 et 20h en heure française. Tout ce programme est soumis à modification jusqu'à la dernière minute par les autorités américaines pour atterrir donc une demi-heure plus tard à Los Angeles. Les premiers pas sur le tarmac seront scrutés par les médias du monde entier. Les joueurs prendront leur quartier dans un hôtel à proximité de l'aéroport que l'on a pu visiter hier et où les forces de l'ordre étaient déjà en pleine inspection. Derrière, c'est une veille de match traditionnelle pour les Iraniens avec une conférence de presse et un entraînement ouvert aux médias. Mais c'est surtout l'environnement autour de cette équipe qui crée l'événement. Le dispositif de sécurité renforcé mis en place par le shérif du comté de Los Angeles doit notamment éviter toute perturbation ou manifestation anti-Iran. La FIFA sait très bien qu'elle n'a pas le droit à l'erreur sur cette séquence. Le moindre faux pas pourrait avoir des conséquences diplomatiques très importantes.
Nicolas Pelletier en direct de Los Angeles, le mondial qu'on suit sur RMC avec cette victoire qui vient d'arriver de l'Australie, hein, 2-0 contre la Turquie. On a vécu le match avec vous, Clément Crécio, toute la matinée. C'est une sacrée surprise côté Australie.
Oui, c'est le bon coup des Australiens de cette matinée. 2-0 donc face à la Turquie. Des Turcs pourtant dominateurs ce matin. Mais ce sont bien les Australiens qui les ont surpris sur des contres et qui remportent la victoire pour leur entrée dans la compétition. 2-0 donc face à la Turquie dans ce match à Vancouver. Et des Turcs qui peuvent être déçus un peu de cette fin de rencontre.
Clément Crécio aux commentaires pour nous faire vivre tous ces matchs du Mondial. Et puis cette nuit, le choc très attendu entre le Brésil et le Maroc s'est conclu sur un nul, un partout.
tout. Les Lions de l'Atlas ont résisté au quintuple champion du monde, but de Saïbari côté marocain avant l'égalisation de Vinicius. Tout s'est joué en première période et les supporters marocains ont été conquis par ce début de mondial. Camille Borin a suivi le match avec eux au Grand Rex à Paris.
Oui, ils étaient 2500 supporters marocains hier soir au Grand Rex et parmi eux, il y avait Noé.
Ah, franchement, le match est incroyable. L'ambiance de la salle est incroyable. Il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de supporters marocains, c'était hallucinant. Les joueurs, ils ont donné à fond, même si c'est un nul. Mais c'est pas grave, c'est le Brésil quand même en face, c'est pas n'importe quelle équipe.
Résultat final, un partout entre le Brésil et le Maroc. Mais qu'importe, Najib n'est pas prêt d'oublier l'ouverture du score de son équipe.
Le moment qui m'a plus marqué, c'est le but du Maroc à la 23e minute. On a tous éclaté dans la salle, c'était euphorique, on s'est amusé. Donc franchement, ouais, on attend de revivre ces moments-là sur le reste de la compétition.
En 2022, les Marocains avaient créé la surprise en atteignant les demi-finales. Alors quand on demanda à Ahmed s'ils peuvent soulever la coupe cette année...
On joue une compétition, c'est pour aller la gagner. Hein. Il y a encore beaucoup de grosses nations. Il va falloir les écarter pour aller gagner le titre. Mais là, ce qu'on a vu ce soir, c'est une équipe bien disciplinée. On peut aller loin.
Tous les matchs du Maroc seront diffusés au Grand Rex. Prochain rendez-vous à minuit, dans la nuit du 19 au 20 juin. Ce sera contre l'Écosse.
Un reportage de Camille Borin auprès des supporters marocains. Eux mettent fin à 53 ans de disette. Les New York Knicks sont champions de NBA. Ils se sont imposés cette nuit 94 à 90 contre les Spurs dans cette cinquième manche. Jalen Brunson est le meilleur joueur, lui qui a inscrit 45 points juste sur ce match. Grosse déception évidemment pour le français Victor Wembanyama qui a parlé en conférence de presse de la plus grande leçon de sa vie. On l'a vu assez abattu,
ouais,
après cette
dur
défaite.
Avec lui-même, dur. Gros coup dur pour le français. Merci Clara pour ce journal qui était extrêmement bien, extrêmement dense, parce qu'ils s'en est passé des choses. Exactement, c'est le bon terme. Ils s'en est passé des choses dans la nuit. On a vécu notamment donc la victoire de l'Australie 2-0 face à la Turquie. Grosse surprise, Fred Hermel.
La première du monde.
Non, elle n'a pas parié.
Non, pas du tout. Moi, je pensais que ça allait être assez facile pour les Turcs. Ben non.
Il est 8h08, les amis. Vous savez ce qu'on fait à 8h08?
On blind text.
On blind text.
RMC, le blind text.
Je vais vous faire écouter les paroles d'une chanson interprétée par un comédien avec un ton qui n'a rien à voir avec la musique normale. Reste Clara. Et il faudra deviner de quel titre il s'agit.
Partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine. Hein. Forçat de l'amour et bonne chance à celui qui veut ma place.
Alors Clara, tu l'as pas.
Je sais.
Non, c'est le chanteur préféré. C'est le chanteur préféré de notre productrice Ameline Lafchin.
C'est un
monument de la chanson française. On parlait d'Obélix. Là aussi, c'est. Si vous avez reconnu de quel titre il s'agit, vous envoyez texte au 73216 pour remporter un 4 photos connecté d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos, les vidéos et même des messages que vous envoyez de votre téléphone. En plus, il y a un bon de 30€ de bon cadeau à valoir sur Agfa Print pour imprimer vos meilleurs souvenirs. Vous envoyez texte au 73216 si vous avez reconnu, et je prends quelqu'un une vingtaine de minutes pour voir s'il a la bonne réponse. Il est 8h10, une courte pause et dans un instant, on se retrouve pour les livres audio. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. 7-9, Anaïs Martin.
Anaïs Castagna.
Vous écoutez RMC, il est 8h12.
RMC, 7-9, Anaïs Matin.
Les livres audio de Fred.
Et aujourd'hui, tu voulais nous parler, Fred, du livre d'Emma Becker intitulé Le Mal Joli.
Oui, aujourd'hui, je viens avec un bouquin d'un genre très prisé depuis quelques années, l'autofiction. Une histoire vraie et romancée à la fois. Alors, pour résumer, je reprendrai cette phrase dite par la narratrice à une vieille dame inconnue dans un café. Je suis amoureuse d'un autre homme que mon mari. Bon, c'est déjà arrivé quelques fois dans l'histoire de l'humanité, hein. Mais là, une femme écrivain rencontre un homme écrivain dans une soirée mondaine littéraire. Sur le papier, c'est un peu Saint-Germain-des-Prés centré, ce quartier mythique des lettres parisiennes. Mais Emma Becker sait nous emmener dans ce double adultère puissant et virevoltant avec Antonin de Quincy d'Avricourt. Le nom ressemble au vrai, mais il est inventé. Au départ, il n'a rien pour lui plaire, celui-là. Grand aristocrate, très conservateur. Et pourtant, comme disait l'autre, le cœur a ses raisons. Un roman bouleversant qui pose aussi cette question cruelle. Pendant combien de temps une femme peut-elle vivre écartelée entre une passion amoureuse et un amour absolu pour ses enfants ? On écoute un extrait de ce livre audio, lu par Emma Becker, elle-même.
Antonin m'attend en tripotant son portable, tout habillé de couleurs vives. C'est drôle, lorsqu'on a envoyé tant de messages, lourds de tant d'allusions, de prononcer ce prénom qu'on se contentait de lire et de voir le visage correspondant se tendre, les yeux derrière les lunettes, chercher à droite, à gauche. Petit menuet de fausse politesse, les baisers qui claquent sur les deux joues. Comment allez-vous ? Vous m'attendez depuis longtemps ?
Pourquoi tu t'es laissé séduire par le mal joli ?
Parce que c'est puissant et profondément intime. Emma Becker publie d'ailleurs les véritables messages que les deux amants s'écrivent. On a le sentiment d'être celui qui regarde par le trou de la serrure. Oui, c'est très freudien tout ça. Nous sommes aussi dans un roman cru, dans la description des nombreuses scènes de sexe. En tout cas, ça fait du bien en cette période où la pudibonderie fait son grand retour. Grâce à ce livre, on se demande si finalement la littérature n'est pas l'un des derniers refuges de la liberté.
Qui est Emma Becker ?
Née en 1988, elle est une auteure franco-allemande très installée grâce à de nombreux succès littéraires, dont La Maison, paru en 2019 et qui a été adapté au cinéma. Souvent dérangeante, elle n'a pas sa plume dans sa poche. Je vous recommande donc aujourd'hui d'écouter Le Mal Joli d'Emma Becker.
Merci, Fred.
Les livres audio de Fred sur RMC avec Audible. Audible, les meilleurs livres audio pour stimuler votre imagination.
Il est 8h15, je voudrais te lire un message de David, parce qu'il est trop sympa ce message, Fred. Les amis, Anaïs et Fred, on parle d'équipe, parce que depuis ce matin, on parle évidemment de l'équipe de France, mais vous, le week-end, vous formez une sacrée équipe, on a l'impression de retrouver le week-end deux copains qui invitent à la radio des copains. Quel plaisir de vous écouter.
C'est très gentil.
Et je trouve ça très
En plus,
très chouette comme description. Des copains qui invitent des copains à parler à la radio. C'est exactement ce qu'on est. Et franchement, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup,
Merci beaucoup, David.
Pour votre message. On a également Pierre-Yves qui est en ligne avec nous, fidèle auditeur d'RMC. Salut Pierre-Yves, ça va ?
Bonjour Anaïs, bonjour Fred.
Bonjour Pierre-Yves.
Ouais, au boulot, depuis quelle heure ?
Minuit et quart.
Ah non !
Bah si.
Minuit et quart. Pierre-Yves, il est boulanger, mais je pensais que c'était un peu plus tard que ça, hein.
Eh non, moi je travaille encore bien à l'ancienne, donc minuit et quart au travail jusqu'à midi et demi aujourd'hui.
D'accord, ok. Ouais.
Bonne journée.
Un petit tour de cadran, mais bon.
Ouais, c'est quand même rude, surtout le dimanche, quoi.
Oui, le dimanche, c'est une belle journée.
Ouais, ouais, mais vous avez l'habitude. Vous avez, c'est comme
on
ça.
A l'habitude.
Pierre-Yves, il se plaint pas.
43e année.
Ouais, 43e année. Bah Pierre-Yves, et ensuite, qu'est-ce que vous faites petite sieste
cet après-midi, ouais, j'ai un peu du monde à la maison, donc ça va être plancha.
Ouais.
Il fait beau, Peggy Bro, je l'ai dit, il fait beau partout.
Il a pas fini de régaler les... Il régale les gens hein, avec toutes ses pâtisseries et tout ça, et ensuite, il cuisine pour la famille, les amis. Il arrête pas, Pierre-Yves.
Ouais, justement, j'ai une question à vous poser, Pierre-Yves. Est-ce que vous faites des gâteaux spéciaux pour la Coupe du Monde ?
Non, j'ai rien envisagé de spécial. Après, voilà, on fera des gâteaux bleu, blanc, rouge, ils sont en finale.
Ah oui, quand même.
Ah oui, d'accord,
mais
ok.
Mais pas avant, parce que moi, j'ai l'impression qu'ils vont pas aller loin cette année.
Oh là là, non, Pierre-Yves.
Ah ouais, bah après, j'espère me tromper.
Pas casser l'ambiance, là.
Franchement, dites pas ça. On est à deux jours du premier match, vous rigolez ou quoi ?
Non, mais comme ça, s'ils vont pas loin, on aura des arbitres français pour aller arbitrer à la finale.
Oui, on serait content, hein, pour M. Turpin, par exemple, mais quand même.
Ah, mais Clément Turpin ou le Texier qui fasse une finale de Coupe du Monde, c'est sympa.
Ce sont de très bons arbitres, tous les deux.
Merci.
Ah bah oui, excellent même.
Merci en tout cas, Pierre-Yves, de
merci
nous avoir appelé. Bon courage pour la
au
journée
plaisir.
À rallonge.
Merci.
Donc.
Merci.
Mathieu nous appelle aussi. Alors lui, Mathieu, il nous appelle pour parler de Kylian Mbappé. Parce que tout à l'heure, je vais recevoir, tu sais qui ? Julien Laurence, qui est notre consultant foot. Pourquoi je le reçois ? Parce qu'il sort une biographie. Kylian Mbappé, la biographie chez Marabout. Et je vais lui demander si on est trop dur avec Kylian Mbappé. C'est d'ailleurs la question que je vous pose à tous ce matin sur RMC. Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez ? Bonjour.
Oui, bonjour Anis. Bonjour,
bonjour Mathieu.
Moi, ce que j'en pense, c'est que le sport, ça reste un sport court. Et voilà, je pense que si Mbappé fait une bonne Coupe du Monde, tout le monde va l'encenser. S'il passe à côté, tout le monde va le critiquer. Après, moi, ce dont j'ai marre, c'est comment c'est qu'il cherche toujours à améliorer ses statistiques individuelles. Et je pense qu'on peut pas comparer le nombre de buts actuels avec le nombre de buts des joueurs d'antan, étant donné qu'il y a beaucoup plus de matchs actuellement. La Coupe du Monde, il y a 48 équipes, alors qu'il y a 50 ans, il y en avait 16. Donc, beaucoup moins de matchs à jouer. Et ouais, voilà, quoi.
Fred. Ouais, mais enfin les statistiques. Un certain Cristiano Ronaldo était obsédé par les statistiques. Ça a été plutôt favorable à ses équipes, hein, ses différentes équipes. Hein. Il faut que les types aient des gros égos aussi pour aller au-delà d'eux-mêmes.
Ouais, mais c'est un peu gênant les persos.
Portugal n'a rien gagné au niveau international.
Oui, mais enfin, si, ils ont gagné l'Euro devant nous.
Oui, l'Euro, ouais.
Et devant nous, hein, malheureusement.
Pas de mondial.
Oui, exact.
Ouais, c'est pareil, pour un petit pays comme ça, gagner l'Euro, c'est pas rien. Hein.
Ouais. C'est vrai.
Vous les voyez aller où, les Bleus, Mathieu? J'entendais Pierre-Yves qui n'était pas franchement optimiste. Vous l'êtes un peu plus?
Tout dépend combien on terminera dans la poule. Et après, tout dépend du croisement avec les autres poules. Si on se retrouve avec un des meilleurs troisièmes, on pourrait tomber sur, par exemple, sur l'Australie. Ce serait plutôt favorable. Par contre, si on termine deuxième...
L'Australie, franchement, ils viennent de créer la surprise, là. 2-0 contre les Turcs.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il vaudrait mieux jouer l'Australie que l'Espagne, par exemple.
Oui, je confirme. Oui.
On est bien d'accord. Oui. On est bien d'accord.
Non, mais de toute façon, il faut gagner. Il faut être premier du groupe. Il ne faut pas se poser de questions. Quoi.
Merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir appelé. Vous regardez le match comment, mardi?
À la maison, avec les enfants, tranquillement.
À la maison, tranquillement? Tout seul?
Ouais.
Vous êtes team Fred Hermel, je m'enferme et je suis tout seul et personne ne me parle?
Je termine déjà le boulot à 20h30, donc j'ai envie d'être un peu tranquille aussi.
D'accord.
À la
maison. Ouais. Il a bien raison, Mathieu.
Je peux comprendre. Merci Mathieu de nous avoir appelé. Voilà. Je vous embrasse. À très vite. Bon dimanche, 8h20. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour accueillir la gagnante du Blind Text. À tout de suite.
RMC 7-9, Anaïs Matin.
Anaïs Castagna.
Vous écoutez RMC, il est 8h22, juste avant d'accueillir Angélique qui pense avoir reconnu le titre qui se cache derrière le Blind Text. Je vous rappelle les trois principaux titres à retenir ce matin. D'abord la surprise au Mondial, l'Australie s'impose 2-0 contre la Turquie. Vous l'avez vécu sur RMC en direct ce matin. Je vous rappelle aussi les tout derniers résultats, Brésil-Maroc. Un partout, ça aussi on l'a vécu ensemble. L'Écosse a battu aussi Haïti 1-0. On y reviendra évidemment dans le journal de 8h30. Ils n'ont pas le même calendrier. Donald Trump annonce que l'accord avec l'Iran sera signé aujourd'hui. Mais Téhéran parle plutôt des prochains jours. Et puis le président américain attendu au sommet du G7 demain à Evian. Une contre-manifestation organisée aujourd'hui à Genève en Suisse pour appeler à boycotter le sommet. 8h22.
RMC, le Blind Text.
Bonjour Angélique. Est-ce que vous êtes là, Angélique? Angélique, oui, tu nous appelles de Saint-Jean-de-Luz. Oui, je vous entends, Angélique.
Bonjour, Angélique.
Je vous entends très bien.
Bonjour.
Même. Je suis ravie de vous avoir donc depuis Saint-Jean-de-Luz. Vous avez bien de la chance d'habiter à Saint-Jean-de-Luz. C'est très, très joli.
Oui,
qu'est-ce que j'allais dire? Vous appelez pour jouer? Vous pensez avoir reconnu le titre qui se cache derrière le Blind Text? On écoute le son que j'ai passé tout à l'heure et on a votre réponse dans la foulée.
Ok.
De partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et à entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fini. Fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine. Hein. Forçat de l'amour et bonne chance à celui qui veut ma place.
Non mais alors attendez, parce que Georges Quirino, qui est arrivé en plateau pour nous vendre son programme des Grandes Gueules du Sport dans une minute, bonjour Georges, ne sait pas. Alors là franchement,
écoutez, en fait, c'est scandaleux. C'est que vous savez, quand on aime le sport, en ce moment on dort pas. Parce qu'il y a
l'excuse de la fatigue. Tu vas voir que l'excuse de la fatigue, ça fonctionne pas avec ce chanteur-là. N'est-ce pas Angélique?
Absolument.
De qui il s'agit?
Alors c'est Johnny Hallyday, Gabriel.
Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie ne plus m'essouffler sous tes cris.
C'est gagné, évidemment. Ben franchement, mais comment tu peux ne pas reconnaître un Johnny Hallyday?
Oh là là. Olé olé pour lui.
Bravo à vous, Angélique. Vous remportez un 4 photos connecté d'Aqua Photo qui affiche instantanément les photos, les vidéos et même des messages que vous envoyez de votre téléphone. Et puis, il y a 30 euros de bons cadeaux à valoir sur Aqua Print pour imprimer vos meilleurs souvenirs. Bravo.
Merci beaucoup. Et continuez à faire vos émissions, elles sont vraiment géniales.
Merci Angélique, c'est très sympa. Je vous souhaite un excellent dimanche. À très
merci
vite.
Merci à vous.
À bientôt.
Le Blind Text sur RMC avec les cadres photos numériques connectés d'Agfa Photo qui affichent instantanément les photos et vidéos envoyées de votre téléphone, d'où que vous soyez.
Alors, c'était un peu trop olé olé pour toi, ça?
Ah oui, c'est curieux, je m'attendais pas à ça.
Gabriel.
Quoi?
Gabriel.
Mais voilà, mais ça, il fait peur. Hein.
C'est Rocky Balboa, ça?
Non, c'est Johnny.
Ah non, c'était Adrienne.
Ah oui, c'était Adrienne.
Ah oui, Adrienne. Ah oui. Oui, mais c'était assez proche, quand même. C'était Rocky Hallyday. Curieux. Bon, non, on invente des concepts, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis fatigué, moi.
C'est l'énergie du désespoir.
Dans un instant. Non, mais c'est vrai qu'il se passe des trucs un petit peu partout. Tu l'as dit, il y a eu des surprises à la Coupe du Monde. On va parler des Bleus, évidemment. Vous allez parler de Mbappé ce matin. Nous, on va faire un vote de confiance. Est-ce que vous avez confiance en Mbappé? Tout simplement à la une des grandes gueules du sport. Oui, nous dit Fred Hermel. On va se demander si les Bleus ont absolument besoin d'un grand Dembélé sur cette Coupe du Monde.
Oui.
Alors, et ensuite, ça s'est pas bien passé pour nos prodiges ces derniers temps. Paul Sexas hier a chuté, son premier coup dur en carrière. Est-ce que c'est un mal pour un bien? On est à 3 semaines du Tour de France. Et Wemby, donc, a perdu la finale NBA. Fred Weiss a suivi tout ça pour nous. Il y a le top 14 également. Il y a la Formule 1. Il y a même du MMA à la Maison Blanche. Parce que Donald Trump, il a plein de choses à faire en ce moment. Hein. Il a installé un octogone dans son jardin. On sera sur place un petit peu partout avec Fred Weiss, Jérôme Pino, Marc Madio et Pascal Duprat. Et vous, au 32-16, évidemment, à partir de 9h.
À tout à l'heure, Georges. D'ici là, est-ce qu'on est trop dur avec Kylian Mbappé? C'est la question que je vais poser à Julien Laurence, notre consultant foot anglais, qui vient de signer la biographie du capitaine des Bleus. Il sera avec nous juste après le journal de 8h30. À tout de suite. La météo, beau et chaud encore, un peu aujourd'hui.
Des températures qui vont aller jusqu'à 34 degrés du côté de Bordeaux et de Nîmes, 33 à Limoges et Perpignan, 32 à Tarbes, 31 degrés à Grenoble, 30 degrés à Rennes comme à Clermont-Ferrand et Montélimar, 29 à Marseille, 28 à Orléans, 27 à Paris, 26 degrés à Toulon et Mulhouse, 24 à Nancy et Nice, 22 à Caen et 19 au Havre, tout ça sous un beau soleil. On a juste quelques grisailles côtières très localisées sur la Méditerranée. Année également sur la pointe du Finistère, quelques nuages mais sans conséquence, des nuages de beau temps sur les frontières du nord-est, mais sinon une fois tout ça dissipé, de toute façon ce sera du grand bleu pour tout le monde avec un risque d'averse orageuse l'après-midi sur les Pyrénées et les Alpes du Sud.
Merci beaucoup Peggy. Vous écoutez RMC, il est
8h30. RMC 7-9, Anaïs Matin.
Et votre journal est présenté par Grégoire Borelli. Bonjour Grégoire.
Bonjour Anaïs, bonjour à toutes et à tous. Des appels à manifester pour dénoncer les inégalités mondiales avant le début du G7 demain. La signature d'un accord entre l'Iran et les États-Unis pourrait-elle avoir lieu aujourd'hui? C'est en tout cas ce qu'assure Donald Trump. On reviendra aussi sur les derniers résultats des matchs de la Coupe du Monde.
Le G7 s'ouvre demain en Haute-Savoie.
Plusieurs organisations et partis politiques de gauche appellent à boycotter et à manifester aujourd'hui à 15h à Genève, à proximité du sommet international, pour dénoncer notamment les inégalités mondiales. Un rassemblement où pourraient éclater certains heurts, et des heurts auxquels se préparent manifestants et commerçants. Rachel Saadodine.
Une ville fantôme, de paroles de Genevois, on n'a jamais vu aussi peu de monde dans des rues. Pourtant baignées de soleil, Olivier, 83 ans, a hâte d'y brandir les pancartes qu'il vient de terminer.
On a deux banderoles. Une, c'est génocide à Gaza, G7 complice. Et l'autre, c'est fuck Trump.
Traduction, Trump va te faire voir. Le président américain, qui fête aujourd'hui ses 80 ans, dans le viseur des manifestants, mais il n'est pas le seul. Mélisse, étudiante de 19 ans, craint aussi.
Les violences policières, on est pacifistes et on est là pour faire entendre nos voix, pas pour casser. Il y a des flics partout. Apparemment, ils sont là pour sécuriser, mais franchement, ils font peur. Tu peux pas faire deux pas sans qu'ils t'arrêtent, qui que tu sois.
Une présence policière qui, au contraire, rassure Océane. Lors de la manifestation anti-G8 de 2003, l'hôtel de ses parents, situé juste derrière la gare, avait été pris pour cible.
On s'était fait exploser les vitres, on avait des employés blessés à l'époque, etc.
Alors malgré ces grandes baies vitrées et le soleil qui cogne à l'extérieur, le hall de l'hôtel est aujourd'hui plongé dans le noir, entièrement barricadé.
Avec des planches de contreplaqué pour éviter les projectiles.
Et pour sécuriser les entrées et sorties des clients, les hôteliers ont embauché 2 agents de sécurité pour la journée.
Et Donald Trump lui a confirmé sa présence à ce G7. Le président américain, qui, je vous le disais, assure que les États-Unis vont signer aujourd'hui un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Une possibilité écartée par la République islamique, qui évoque plutôt une signature dans les jours qui suivent, Axel Monnier.
La question n'est plus de savoir s'il y aura un accord cadre, là-dessus tout le monde semble s'accorder, mais plutôt quand celui-ci sera signé. Le Pakistan a déclaré à 2 reprises ce samedi que ce serait acté dans les 24 heures. Mais l'Iran dit vouloir prendre son temps et semble surtout, en coulisses, refuser de faire ce cadeau d'anniversaire à Donald Trump, qui fête ce dimanche ses 80 ans. Le président américain, qui n'est pas apparu publiquement ce samedi, l'affirme sans détour sur son réseau social. Pourtant, non seulement le protocole d'accord sera bien signé ce 14 juin, mais cela entraînera en plus, dit-il, la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz. Mais entre la volonté de Donald Trump et la réalité des discussions, on l'a souvent vu, il y a une différence. Surtout que, contrairement à ce qu'affirme le président américain, cet accord cadre n'est qu'un début. Des négociations techniques d'une durée de 60 jours devront régler les nombreux problèmes qui demeurent, notamment la question du nucléaire iranien.
Vous l'avez entendu, Donald Trump fête ses 80 ans aujourd'hui et pour l'occasion, le président américain a vu les choses en grand. Il organise dans les jardins de la Maison Blanche des combats de MMA avec la plus grosse organisation du monde, l'UFC. Il s'agit là d'un événement hors norme, Flora Moussi.
C'est bien l'endroit où jamais on aurait imaginé une cage de MMA être installée. Et pourtant, Donald Trump l'a fait. À 20 mètres à peine de la Maison Blanche, une énorme structure posée dans le jardin sud pour abriter l'octogone dans lequel les combats auront lieu dans la nuit de dimanche à lundi, heure française. 5000 personnes assisteront à l'événement, principalement des militaires invités par le président américain. Pas forcément du goût des fans de MMA, pourtant surexcités à l'approche de l'événement.
Ils ont dépensé tout cet argent et nous, on ne peut pas assister au combat. C'est mon argent que vous prenez tous et on n'en profite pas. Je n'en vois pas la moindre trace.
85 000 supporters attendus dans une fan zone juste à côté avec des écrans géants pour suivre notamment le combat du Français Cyril Gane. Enfin, attention à la météo. Des orages sont attendus ce soir sur Washington et menacent plus que jamais le bon déroulé d'un événement d'ores et déjà historique.
Flora Moussi pour RMC.
RMC Coupe du Monde 2026.
RMC radio officielle de la compétition avec 100% des matchs commentés en direct.
Ah oui, il y a une trentaine de minutes, c'est le match Australie-Turquie qui s'est terminé. Rencontre que vous avez pu suivre donc en direct sur RMC.
C'est encore les Australiens qui vont pouvoir, pourquoi pas tenter leur chance. Le deuxième but de l'Australie, c'est un véritable braquage qu'ils sont en train de réaliser. C'est Ocean's Eleven.
Julian Bubnov au commentaire pour le deuxième but de l'Australie qui l'emporte donc face à la Turquie avec un score final de 2-0. Hier soir, la Suisse a concédé le match nul face au Qatar. Un partout également entre le Maroc et le Brésil. L'Écosse a signé sa première victoire dans un mondial depuis 1990 en l'emportant 1-0 face à Haïti. À suivre ce soir, Allemagne, Curaçao à 19h. Ce sera ensuite aux Pays-Bas d'affronter le Japon à 22h. Un peu de patience. Plus que deux jours avant de voir les Bleus fouler les pelouses du mondial. Ce sera contre le Sénégal.
Au programme ce soir également du rugby.
Ah oui, suite des barrages du top 14, Paris affronte La Rochelle pour une place en demi-finale. La Rochelle qui fait office de sérieux concurrent avec 6 victoires de suite, Romain Asselin.
Un jeu d'attaque basé sur la vitesse et la prise de risque, déjà à 106 essais marqués, c'est 30 de plus qu'il y a un an. Spectacle assuré pour le centre Rochelet-Jules Favre.
On arrive à jouer dans les espaces, ça séduit tout le monde parce que tu viens au stade, tu vois du beau rugby.
Un rugby souvent spectaculaire, en partie inspiré du Grand Toulouse. Rémi Thalès, l'un des entraîneurs de La Rochelle.
Le gros tournant de notre jeu, c'est la claque qu'on a pris à Toulouse en décembre. On avait pris une leçon de rugby et s'est remis en question. On a essayé de changer des choses, de tirer aussi des analyses du jeu toulousain, de ce qu'il propose, de ce que nous on pouvait mettre.
Pour créer une nouvelle identité désormais cher au capitaine Grégory Aldrit.
On prend énormément de plaisir. Il y a beaucoup plus de mouvement, mais il y a aussi quand même du contact. Il y a plus de liens entre trois quarts avant. Donc nous, on touche aussi plus de ballons devant. Et on a le droit de perdre au Stade français. Mais par contre, ce que j'ai dit à l'équipe, c'est que si on perd en ayant tout essayé, en ayant attaqué du début à la fin, en laissant tout ce qu'on a sur le terrain. Quoi.
La Rochelle n'a gagné qu'une seule fois dans son histoire au Stade Jean-Bouin, il y a 8 ans.
Romain Asselin pour RMC, le coup d'envoi de ce Paris-La Rochelle, c'est ce soir à 21h.
Merci beaucoup Grégoire, il est 8h36. Et c'est le moment de jouer pour gagner votre prime de match avec 500 euros par but marqué à chaque match de la Coupe du Monde. Il y a eu des matchs cette nuit et des buts. La prime de match est donc actuellement de 39 500. Vous retenez bien le montant de la prime parce qu'à tout moment on peut vous appeler hein, et si lorsqu'on vous appelle vous donnez le montant de la prime, c'est simple, vous la remportez, vous envoyez maintenant but au 7-32-16, but au 7-32-16 pour tenter de votre chance. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. 8h37 désormais, à suivre le petit-déj média de Rémi Jacob. Bonjour Rémi.
Bonjour, vous pouvez m'appeler hein, 06-83-33, j'ai la réponse. Hein.
On va parler des Bleus.
On va parler des Bleus, effectivement, à 8h50. On va décortiquer la communication des Bleus à l'approche de France-Sénégal. On va vous raconter concrètement comment travaillent les journalistes sur place pour couvrir l'équipe de France, comment ça se passe notamment les fameuses conférences de presse, qui a le droit de poser des questions. Bref, plein de questions passionnantes auxquelles répondra notre ami Jean-Louis tour. Rendez-vous à 8h50.
À tout à l'heure, tu parlais des Bleus. Bah justement, il y a pas mal de critiques autour du capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Est-ce que c'est vraiment justifié? Est-ce qu'on est trop dur avec lui? Je reçois dans un instant Julien Laurence, notre consultant foot anglais, qui vient publier sa biographie chez Marabout. Il est avec nous dans un instant. À tout de suite.
RMC 7-9, Anaïs Matin.
Anaïs Castagna.
Vous écoutez RMC, il est 8h39.
RMC.
L'invité du jour.
RMC. RMC.
Mon invité ce matin, c'est notre consultant foot anglais sur RMC, Julien Laurence. Salut Julien.
Salut Anaïs, salut à tous.
Et merci de te brancher aussitôt le matin. D'habitude, on t'entend plutôt dans l'after. Mais j'ai voulu t'avoir ce matin parce que j'ai vu que tu venais de sortir Kylian Mbappé, la biographie chez Marabout. J'ai plein de questions à te poser, Julien, d'autant qu'on est à deux jours du premier match de l'équipe de France contre le Sénégal. D'abord, bah, raconte-nous comment ça s'est fait, parce que Kylian Mbappé, c'est quand même une méga star difficile à approcher, hein.
Ouais, c'est vrai. Alors, il n'a pas participé directement au livre lui-même. C'est pas une autobiographie. Donc, c'est que sa biographie, l'histoire de sa vie, en fait. Et c'est vrai que de son côté, du côté de la famille très proche, j'ai pas eu cet accès-là avec des longues séances d'interviews, d'entretiens, etc., etc. Mais il y a plein de déclats super intéressantes que lui et ses parents, par exemple, ont pu donner à d'autres médias. Il y a plein de petites histoires aussi sur sa vie, son enfance, à Bondy, ce qui s'est passé à Clairefontaine, après à Monaco, chez les jeunes, et puis après, bien sûr, sa carrière professionnelle à lui. Mais c'était les Anglais, en fait, m'ont approché parce que eux trouvaient ça fascinant, le personnage, le joueur, son évolution avant une Coupe du Monde. En plus, c'était particulier avec le transfert au Real Madrid aussi, donc on a considéré que c'était le bon moment pour raconter une histoire dont il y a pas mal d'auditeurs qui connaissent déjà dans sa globalité, on va dire, un petit peu la vie et l'histoire de Kylian Mbappé, mais à travers le monde, et on a déjà vendu le livre dans plein d'autres marchés, dans plein d'autres pays. C'est vrai que je pense qu'il y avait, cette envie aussi d'en savoir un petit peu plus sur la personne qu'il est, l'homme qu'il est, le joueur qu'il est, et surtout ce développement depuis son enfance et ses débuts dans le foot jusqu'à aujourd'hui être devenu l'un des meilleurs joueurs du monde.
On va y revenir, mais il était au courant, il a demandé une relecture?
Non, pas de relecture, non, ils étaient au courant. Il y a pas de... Après, il n'y a pas non plus de trucs trop polémiques, tu vois, dans le livre. C'est vraiment l'histoire. Moi, ça fait longtemps que je le suis. La première fois que je l'ai vu, il avait 11 ans, il jouait à Bondy. C'était un de mes potes, moi qui suis parisien, qui m'avait dit: un jour, quand tu seras revenu à Paris, on ira voir ce gamin, tout le monde m'en parle, c'est un phénomène. Il est tout petit, tout maigre, il a un maillot trop grand pour lui, mais il faut absolument qu'on aille le voir. Donc on est allé un jour à Bondy le voir jouer. Et effectivement, c'était un choc à quel niveau il était déjà. Et puis après, j'ai suivi toute la carrière en club, en sélection, avec l'équipe de France et tout ça. Et moi, je trouve vraiment que c'est quelqu'un, même si je peux comprendre les débats autour, etc.
On va y revenir, les débats autour de Mbappé. D'abord, oui, dans ton livre, donc, on voit que Kylian Mbappé, il est tombé dans la marmite du foot tout petit. Parce qu'en fait, il suivait son père qui était entraîneur, qui avait des responsabilités, en effet, à l'AS Bondy. T'écris ceci: à 4 ans, Kylian Mbappé est encore trop jeune pour être un jeune licencié de l'AS Bondy, mais il joue plus souvent au foot que n'importe quel membre du club.
Ouais, je pense que c'était la petite mascotte de l'AS Bondy. Ils habitaient en face du stade. Il y avait juste une petite rue à traverser de leur petite cité jusqu'au stade, Léo Lagrange de Bondy. C'était... puisque Wilfried était impliqué énormément dans la vie du club, son Wilfried. Père, voilà, exactement, et même Faïza, la maman aussi, ouais, dans la vie du club tous les jours. Alors Wilfried en tant que coach, en tant que directeur sportif, il a eu plein de casquettes différentes. C'était naturel pour Kylian d'être là aussi tout le temps, quoi, après l'école, le week-end, le mercredi. Même si lui pouvait pas s'entraîner directement, il y avait toujours un ballon, balle au pied, il était toujours là, il c'est exactement ça, il est tombé dans la marmite étant petit. Et puis il y a cet exemple aussi de Wilfried, du papa, qui était là, et Kylian qui est quand même une éponge, qui entend quelque chose, qui garde tout, qui a une mémoire assez incroyable, a grandi forcément dans cet environnement-là, et le football a toujours été une passion, ça c'est sûr, mais aussi, je pense, très très rapidement, c'était quelque chose dont il pouvait pas se passer, finalement.
Alors, une passion, évidemment, il est passionné, fan de Zidane. Il y a cette anecdote que j'adore. En 2008, il a 8 ans, il va chez le coiffeur et il demande la coupe de Zizou. Le coiffeur lui dit: c'est quoi la coupe de Zidane? Bah, vous savez, les cheveux sur les côtés et rien au milieu. J'adore, ça m'a fait mourir de rire. Cette année, il est le capitaine des Bleus à la Coupe du Monde. Il doit être le guide des Bleus, mais certains disent qu'il est trop individualiste pour ce rôle. T'en penses quoi, toi?
Non, moi je le vois pas. Moi je le vois pas comme ça. Et d'avoir suivi depuis si longtemps et finalement de, même si on n'est pas du tout proche, on n'est pas copains, mais de le connaître comme ça. Il y a peut-être un degré d'individualisme parce qu'il est numéro 9 aussi et parce que cet attaquant-là, il vit pour le but, il vit pour marquer, il vit pour gagner. Et lui a cette détermination-là, cette ambition. Ça c'est sûr. Après, c'est quelqu'un qui a toujours voulu être capitaine, qui a ça en lui, je pense, qui sait. Qui a du charisme, qui a une aura, qui sait.
Il est encore le joueur le plus important de l'équipe de France.
Ah, pour moi, sans aucun doute, ouais, sans aucun doute, sur le terrain.
Parce qu'il y a Dembélé qui est quand même vainqueur de la Ligue des Champions, Ballon d'Or.
Ouais, bien sûr, et je pense que Ousmane et Kylian sont très proches. Ils ont une vraie belle relation. C'est un joueur qui est très important. Kylian sait que t'es pas capitaine tout seul dans n'importe quelle équipe, mais encore plus dans une équipe comme l'équipe de France. T'as besoin de gens autour de toi aussi. Il y a ce groupe de leaders un petit peu dans cette équipe-là avec des vice-capitaines aussi sur lesquels il s'appuie. C'est pas du tout quelqu'un qui va tout gérer tout seul, etc. Donc il a besoin des autres. Il le sait. Il est très fort pour amener les autres avec lui aussi. Et pour moi, il a cette capacité à regrouper tout le monde et à ramener tout le monde derrière lui. Après, il fait des choses qui sont très importantes pour l'équipe, dans ses prises de parole, dans ses prises de position, ce qu'il peut faire pour les primes, pour les droits d'image, pour tout ça, pour les familles des joueurs aussi.
Et Julien,
pour moi, c'était le bon choix.
Et Julien, je parlais de la Ligue des Champions et du Ballon d'Or, c'est que ça lui manque toujours à Mbappé. Qu'est-ce qui a cloché? À 27 ans, il devrait déjà avoir gagné toutes ses récompenses suprêmes. Lui, qu'on comparait à Messi, Ronaldo.
Ouais, alors après la Ligue des Champions, je pense qu'elle arrivera un jour. Le Real va reconstruire une équipe qui sera très forte. Il va la gagner. Il gagnera le Ballon d'Or aussi. Il est resté au PSG si longtemps. 7 ans, c'est long aujourd'hui dans le football moderne de rester dans le même club parce que c'était son club, parce que c'était sa ville, parce qu'il rêvait d'être le premier à ramener la Ligue des Champions à Paris, au Parc des Princes. Et je pense qu'il est peut-être resté un petit peu trop longtemps aussi à un moment dans l'optique de réaliser ce rêve-là et cet objectif-là. Faut bien comprendre qu'Mbappé, c'est un homme d'objectif. C'est un homme qui veut réussir tout ce dont il rêve là. Et donc, ça en faisait partie. Et il a donné sa personne, il a été très proche, il a perdu une finale, il a perdu des demi-finales de Ligue des Champions, il était vraiment pas loin. Il y a un moment où effectivement ça lui a échappé. C'est sûrement un petit peu dommage de ne pas l'avoir fait au PSG, mais je pense que d'ici à la fin de sa carrière, il aura remporté au moins une Ligue des Champions et au moins un Ballon d'Or. C'est juste que effectivement après 2018, il était si jeune, il avait le monde devant lui et peut-être qu'on s'est dit que ça allait arriver plus tôt que finalement ce qui s'est passé.
Mbappé, qui est souvent critiqué pour son arrogance, c'est une image ?
Ouais, mais après, c'est un Parisien, je suis Parisien aussi, je sais pas si toi t'es Parisienne, je pense qu'on a aussi un petit peu ça en nous aussi, de ce côté...
Être arrogant ?
Pas forcément arrogant, mais avoir
les Parisiens qui nous écoutent apprécieront.
Non, mais tu vois, après, d'avoir cette confiance en soi, il a toujours été confiant, ça a toujours été le meilleur. À part peut-être, allez, on va dire, la première année à Clairefontaine, où finalement, parce qu'il est à Clairefontaine, à l'INF, où c'est les meilleurs de la région parisienne, et donc il y a du niveau incroyable. À Monaco, la première année, où ça se passe pas très bien avec Bruno Irles, son entraîneur à l'époque, où c'est peut-être les seuls moments où il a pas vraiment été le meilleur, mais sinon, il a toujours été le meilleur.
Ça te choque pas? Tu trouves qu'on est trop dur avec lui en France?
Moi, je comprends pas. Après, c'est cette mentalité aussi que les Anglo-Saxons n'ont pas du tout, par exemple, sur l'arrogance ou la confiance en soi démesurée parfois. Et je trouve qu'à ce niveau-là, il a plus ce côté anglo-saxon dans sa culture, finalement. Et c'est cette génération, un petit peu aussi, sa génération, que la nôtre, par exemple. Et ce n'est pas du tout la mentalité française non plus, trop, dans ce sens-là. Et je pense que parfois, il se sent peut-être un petit peu incompris à ce niveau-là, contrairement à ce qu'on pourrait dire de lui en Angleterre s'il était anglais ou aux États-Unis s'il était américain. Et encore une fois, je répète un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est ces athlètes-là qui sont les plus grands dans leur sport, ils ont ça en eux. Ils sont nés comme ça. C'est pas quelque chose qu'ils ont fabriqué. Ils ont ça en eux, cette ambition, cette détermination-là. Et pour moi, il l'a. Et c'est la détermination, pas du tout de l'arrogance.
Merci beaucoup, Julien Laurence, d'avoir été avec nous ce matin. Et Kylian Mbappé, la biographie. C'est donc chez Marabout. Merci beaucoup. Premier match de Mbappé et de ses coéquipiers, c'est donc mardi à 21h en direct sur RMC contre le Sénégal. Vous ne raterez rien. Et toi, Julien, on te retrouve évidemment en direct des États-Unis durant ce mondial avec toute l'équipe de l'After. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à toi. Merci à tous.
Il est 8h49. Dans un instant, on continue de parler des Bleus avec Rémi Jacob qui va analyser pour nous la communication de l'équipe de France. Pas seulement de Mbappé, hein, de toute l'équipe et de Didier Deschamps. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Anaïs Matin.
Anaïs Castagna.
Vous écoutez RMC, 8h51.
RMC, le petit-déj média.
Allez, on fait couler le café, c'est le petit-déj avec Rémi Jacob, journaliste à la Tribune Dimanche, membre de la team Anaïs Matin. Salut Rémi.
Salut Anaïs et Fred.
Bonjour. Ce matin, dans ton dossier du jour, donc à l'approche de France-Sénégal dont on venait de parler, on va décortiquer la communication de l'équipe de France de foot.
Ah oui, absolument, communication millimétrée où rien n'est laissé au hasard. Alors on va vous expliquer ce matin comment ça se passe concrètement pour les journalistes sur place qui couvrent l'équipe de France. Déjà, il faut savoir qu'il y a des moments bien précis où ils peuvent approcher les Bleus. Tout ça est extrêmement cadré. Alors le jour des matchs dans le stade, il y a la fameuse zone mixte par laquelle passent les joueurs, où il est possible, eh bien, pour les journalistes accrédités de faire des interviews à la volée, parfois même d'échanger quelques mots en off avec les joueurs. Ensuite, entre les matchs, il y a la possibilité pour eux de caler des entretiens individuels, mais c'est pas si simple, hein. Il faut l'accord de l'entourage du joueur, évidemment, plus celui du staff de l'équipe de France. Et puis évidemment, avant chaque match, vous le savez, il y a la conférence de presse qui se transforme parfois en véritable show, comme ici, écoutez bien, pendant la Coupe du Monde 2018 avec Adil Rami.
Vous ouvrez votre cahier, page 8, exercice 4, pas de bruit.
Je voulais savoir aujourd'hui, vous faites le show en conférence de presse, mais ni hier ni aujourd'hui, on a eu titulaire de joueurs amenés à jouer.
Ça veut dire que t'es pas content de me voir.
J'adore, tu fais le show.
Je suis ton clown alors.
J'ai pas dit ça.
Non, vous savez très bien qu'on a un effectif qui tourne ici en conférence de presse. Et aujourd'hui, manque de peau pour toi, c'était moi. Voilà. Et on m'a fait passer en premier parce qu'après, c'est Blaise. Et Blaise, c'est pas aussi marrant que moi.
C'est la réunion en conférence de presse. Ça vous fait rire, mais c'est vrai, parce qu'il y a souvent des petits moments comme ça. Je fais une parenthèse, vous vous souvenez tous évidemment de Ribéry, sa fameuse roue tourne. Là aussi, c'était en courbe de presse. Alors, comment est-ce qu'elle se déroule, cette conférence de presse? Quelles sont les règles du jeu? Quelle est notamment la personne qui décide qui va parler? Eh bien, j'ai posé la question à notre ami Jean-Louis Tour, voix des Bleus et rédacteur en chef football de RMC. On l'écoute.
C'est le chef de presse de l'équipe de France, qui s'appelle Raphaël Raymond, qui est un ancien journaliste à l'équipe, qui travaille avec Didier Deschamps depuis un moment, qui anime donc la conférence de presse et qui note les médias, les journalistes qui lèvent la main. 75-80% sont les journalistes français qui ont la parole. Il y a pas la guerre, mais il faut quand même marquer son territoire. C'est-à-dire que si RMC Sport a pas de questions à une conférence de presse, ça va pas bien se passer. On ira le signifier au chef de presse.
Jean-Louis, à qui j'ai demandé, tiens, s'il avait des tips, des techniques pour obtenir des joueurs les meilleures réponses possibles.
Il a bien compris depuis sa carrière que le but, c'était de ne pas faire de vagues, de ne pas faire de petites phrases qui puissent être interprétées d'une façon ou d'une autre par l'adversaire. Donc Deschamps, il conditionne les joueurs en permanence à essayer de faire de la langue de bois, ou en tout cas...
Ça n'est pas le bon son, hein. C'est pas grave. C'était... On s'en approche justement. Alors les tips, je vous les donne quand même, hein, les tips de Jean-Louis, c'était garder le micro. Garder le micro, ne pas le lâcher tant qu'effectivement on n'a pas obtenu du joueur la bonne réponse. Et puisqu'on y...
C'est comme avec les politiques en fait.
Exactement. Et puisqu'on y vient à Deschamps, effectivement, on va réécouter ce son, puisqu'il évoque un certain Didier Deschamps, hein, qui maîtrise énormément la communication des Bleus. Vous allez l'entendre, hein, il cadre énormément les prises de parole médiatiques de ses joueurs. C'est ce que nous explique Jean-Louis Tour.
Il a bien compris depuis sa carrière que le but, c'était de ne pas faire de vagues, de ne pas faire de petites phrases qui puissent être interprétées d'une façon ou d'une autre par l'adversaire. Donc Deschamps, il conditionne les joueurs en permanence à essayer de faire de la langue de bois, ou en tout cas de ne pas donner de choses qui pourraient être néfastes au groupe, aux journalistes. C'est pour ça qu'il a été content d'avoir Hugo Lloris comme capitaine pendant longtemps, qui était bien dans ce moule-là.
Hugo Lloris, capitaine de l'équipe de France de 2010 à 2022, a la parole effectivement très maîtrisée. Alors avec son successeur Kylian Mbappé, ça a été une toute autre affaire au début. On a tous en tête ses déclarations en 2024 au moment des élections législatives, quand il avait pris position contre le Rassemblement National, même si aujourd'hui, c'est ce que m'a expliqué Jean-Louis Tour, eh bien il a quand même un peu changé. Kylian Mbappé s'aventure un petit peu moins qu'avant sur des terrains extra-sportifs dans ses prises de parole.
Et puis comme dans tout collectif, il y a des joueurs faciles à interviewer et d'autres un petit peu moins.
On va commencer par les bons clients avec dans le top 3 de Jean-Louis Tour. Kylian Mbappé, on vient d'en parler, mais également Ousmane Dembélé ou encore Ryan Cherki, qui on le sait, est très très spontané. En revanche, il y a une catégorie de joueurs où là-bas, faut sortir les rames. Écoutez.
jeunes sont les plus difficiles à dérider. C'est tout le temps comme ça. Forcément, ils marchent sur des œufs. Ils savent pas trop sur quel terrain ils peuvent aller. Dans ces cas-là, on se recroqueville, on se ferme un peu, on fait de la langue de bois et on a du mal à s'extérioriser. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant de voir l'évolution dans la communication des joueurs entre leur début et leur fin de carrière. Il y en a pas un qui échappe à la règle. Tous ceux qui ont commencé très timides, ils se sont quand même améliorés avec la maturité et avec l'expérience.
Jean-Louis Tour, vous pouvez évidemment retrouver sur place tout au long de cette Coupe du Monde que RMC vous fait vivre à l'antenne, vous le savez, mais également 24 heures sur 24 sur la radio digitale, disponible notamment via l'application RMC. Je vois que ça vous a fait réagir à pas mal de sons, notamment sur cette communication qui est quand même très cadrée à la Deschamps. Je me tourne vers toi.
Non, mais même, c'est l'époque qui veut ça. Moi, je suis un vieux journaliste. Moi, j'ai connu.
Raconte-moi une histoire.
On était dans les vestiaires. Après les matchs, avec les joueurs en train de prendre leur douche. Ouais. Et aujourd'hui, il y a une distance énorme. Et encore, dans une Coupe du Monde, tu as des conférences de presse tous les jours quasiment. Donc c'est... Mais en club, c'est devenu quasiment impossible de travailler.
Parce que là, effectivement, c'est ce que disait Jean-Louis, hein, c'est très très cadré. Alors il y a la conférence de presse, en dehors, il y a les entretiens, mais il faut une double validation. C'est dommage, parce qu'effectivement, on arrive peut-être à des discours un petit peu plus lisses, ou quand on n'est pas comme ça en contact direct, parfois off avec les joueurs, c'est un petit peu dommage pour les aspérités.
Oui, mais c'est mieux en sélection qu'en club. Ouais. Aujourd'hui, c'est de la sélection, naturellement, on a plus d'occasions de parler aux joueurs que dans les clubs où c'est quasiment terminé. Quoi.
Ouais, toi, j'en avais marre de ça.
Surtout que moi, j'ai connu l'époque où j'étais à l'entraînement des Galactiques du Real Madrid et je pouvais parler à Beckham, Zidane, Roberto Carlos, toutes les grandes stars tous les jours. Et aujourd'hui, Mbappé, après un match du Real, tu ne lui parles pas.
Ouais, et je reviens sur les Bleus. Hein. C'est effectivement parfois frustrant cette communication un peu langue de bois de Deschamps, mais si je me place du point de vue de Didier Deschamps, il a tout à fait raison.
Bien sûr.
Effectivement, avec Hugo Lloris, il n'était pas du tout inquiété quand il était capitaine. Il avait un discours très très lisse, très très tiède. Hein, on peut même le dire. Mais c'est vrai que je me place du point de vue de Didier Deschamps.
Il a raison aujourd'hui.
Alors ça change tout. Tu as raison. Il y a des choses qui peuvent échapper.
T'as peur de ce que tu vas dire, de ce qui va partir. Être interprété. Merci beaucoup, Rémi.
Merci, Rémi.
Bon dimanche.
Le petit déj média dans Anaïs Matin sur RMC avec la Tribune Dimanche à retrouver dès aujourd'hui en kiosque.
Il est 8h57, une courte pause. On se retrouve dans un instant pour vos grandes gueules du sport. Ce sera juste après le journal de 9h de Clara Gabillet. À tout de suite.
RMC
7-9, Anaïs Matin.
Vous écoutez
RMC. RMC, Anaïs Matin.
Avant l'arrivée de vos grandes gueules du sport, le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour à tous. Un contre G7 aujourd'hui en Suisse. Des dizaines de milliers de manifestants attendus à Genève pour appeler au boycott du sommet international qui débute demain de l'autre côté du lac Léman, à Évian, en France. Rachel Sadodine, vous êtes en direct ce matin pour RMC. Cette manifestation, vous allez la suivre cet après-midi dans un contexte bien particulier.
Oui, je suis arrivée à Genève hier, découvrant une ville quasi vide, mais survolée par des hélicoptères, des forces de l'ordre, quadrillées aussi par des policiers suisses particulièrement présents autour des lieux investis par le collectif Nos G7. Cantine, camping dans le village militant. On prépare ce matin des pancartes au slogan anticapitaliste, antiraciste, féministe, avec aussi, petite surprise pour l'anniversaire du président américain, une grande banderole, fuck Trump. Cantonnée à la rive droite de la ville, la manifestation inquiète les commerçants. Partout, des plaques de bois ont été installées devant les fenêtres. Et pour l'encadrer, cette manifestation, 7400 policiers et gendarmes suisses. Pas de rassemblement, en revanche, anti-G7, de l'autre côté de la frontière, en France, où 14 000 membres des forces de l'ordre et sapeurs-pompiers sont déjà sur le pont, en attendant l'arrivée des chefs d'État étrangers, dont Donald Trump, donc, qui seront accueillis à Évian demain soir.
Rachel Sadodine, le G7, où sera évidemment discuté cet accord entre l'Iran et les États-Unis. On ne sait plus vraiment à quoi ça s'en tenir, tant les annonces dissonnent. Donald Trump et le médiateur pakistanais affirment qu'il sera signé aujourd'hui, mais Téhéran reste plus flou et parle d'une signature dans les prochains jours. C'est dans ce contexte que les joueurs iraniens arrivent aux États-Unis pour entamer leur mondial. Après des mois d'incertitude, notamment côté visa, ils joueront demain contre la Nouvelle-Zélande.
RMC Coupe du Monde 2026.
Et la surprise de cette Coupe du Monde ce matin, celle de l'Australie qui a renversé la Turquie, victoire 2-0. Le choc de la nuit Brésil-Maroc, lui, s'est soldé par un match nul un partout. Les Lions de l'Atlas ont bien résisté au quintuple champion du monde. Un autre exploit peut-être, Curaçao, qui compte bien rendre la vie difficile aux Allemands. C'est ce que dit le sélectionneur avant le match qui se tiendra ce soir à 19h. Et puis la joie dans les rues de New York cette nuit. New York qui redevient champion de NBA, 53 ans après son dernier titre. Victoire cette nuit 94 à 90 contre les Spurs dans cette cinquième manche. Le meneur new-yorkais Jalen Brunson, élu meilleur joueur de cette finale. 45 points inscrits cette nuit. C'était pas vraiment la même ambiance à San Antonio hein, pour Victor Wembanyama, le Français abattu en conférence de presse.
On n'était pas prêts. J'étais pas prêt à gagner une bague. C'est évident. Je pense qu'en termes de volonté de bien faire, d'intensité, d'effort, on était à un bon niveau, j'étais à un bon niveau. On manque pas de talent, on manque pas de capacité, c'est vrai. On fait trop d'erreurs, je fais trop d'erreurs.
Voilà la colère, la tristesse de Wemby contre lui-même hein, après cette défaite en finale de NBA. Et puis en cyclisme, c'est la dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. On a eu très peur hein, hier avec la grosse chute du Français Paul Sexas près du Grand Colombier. Maria Azé, vous êtes en direct ce matin. C'est un petit peu tôt pour savoir s'il sera sur la ligne de départ tout à l'heure.
Oui, le départ ne sera donné qu'à 13h20. Paul Sexas vient probablement de se lever. À l'instant, la décision sera prise en fonction de la nuit qu'il a passée. Une décision à ne pas prendre à la légère puisque la dernière étape de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas propice à la récupération. En plus, cette course n'est qu'une répétition pour le coureur de 19 ans dont l'objectif majeur reste le Tour de France cet été. Paul Sexas doit d'ailleurs partir en stage en altitude et reconnaître les dernières étapes de la grande boucle dans les prochaines semaines. La décision devrait probablement lui revenir. Voudra-t-il tenter de combler ses presque 2 minutes de retard au classement général cet après-midi ou préférera-t-il se préserver pour le Tour de France dans 3 semaines? Réponse tout à l'heure.
Maria Azé, on vivra cette étape avec vous sur RMC. Le Quintet, c'est à Chantilly aujourd'hui, départ 15h20. La Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, l'As Maneki. L'outsider, c'est le numéro 2, Kalas, l'As et le 2.